السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous sommes inshallah ta'ala dans le 10e cours et nous sommes بإذن ta'ala le 6 Dhul Hijjah 1428, c'est-à-dire le 15 décembre 2007, بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب, nous sommes toujours avec les règles du mariage, بإذن الله سبحانه وتعالى. Et, juste une petite révision, on s'est arrêté où on a dit, نعم, une seconde, inshallah تعالى. نعم, on avait dit que shahada. نعم, on était dans la shahada. نعم, les témoins. Et on avait terminé par dire que tout le monde sait qu'en islam, la femme a son avis. La femme, نعم, a son avis dans le mariage et que personne ne peut marier une femme sans son avis. On avait cité le cas d'une femme, Khansa bint Judam al-Ansariya, qui, son père l'a mariée sans son avis. Ensuite, elle a été au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé son mariage. Il a annulé son mariage, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'appelle, Al-Muharramat min al-Nikah, ou Al-Muharramat fin-Nikah. Disons, les femmes qui sont interdites dans le mariage. Les femmes avec lesquelles il est interdit de se marier. قوله تحرم أبدا. الشيخ الله يرحمه دي المحرمات في النكاح. نعم. Est-ce que elles sont معدودات أو محدودات؟ Est-ce qu'elles sont يعني محدودات limitées, les femmes qui sont illicites, ou bien sont معدودات, ou bien elles sont comptées؟ الجواب, il a dit إنهن محدودات. نعم, il a dit إنهن محدودات والمحرمات معدودات. Avant cela, il a dit وهل المحللات محدودات أو معدودات. Pardon, il parle d'abord de celles qui sont permises. نعم, il parle de celles qui sont permises, c'est-à-dire le contraire, celles qui sont permises. Est-ce qu'elles sont معدودات, نعم, elles sont comptées, ou bien sont محدودات, ou bien elles sont limitées. Il a dit le jawab, annahunna mahdoudat. Les femmes qui sont permises sont limitées. Et celles qui sont interdites sont comptées. Naam. Maintenant, si on doute, on ne sait pas, est-ce qu'elles sont permises ou interdites, al-asl, la base c'est quoi? C'est que c'est permis. La base c'est que la femme est permise. L'annan mahdoud bid itlaq. إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عمومه. نعم, parce que, نعم, parce que les choses limitées, نعم, c'est quoi? C'est par la base. Si on n'a pas de dalil, on reste dans la généralité. Il a dit, et celles qui sont interdites dans le mariage en islam, نعم, ce sont des sortes. On peut le dire, des diviser en deux grandes sortes. On peut les diviser en deux grandes sortes. Naam. المحرمات إلى الأبد، celles qui sont interdites éternellement. والمحرمات إلى أمد، et celles qui sont interdites d'une façon limitée. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont interdites, nam, éternellement. Et il y a des femmes qui sont interdites temporairement. Il n'a pas donné d'exemple, je donne un exemple très simple. La sœur, nam, la sœur est interdite éternellement. En aucun cas, il n'est permis à un homme de se marier avec sa sœur. Donc ça, ça rentre dans la première catégorie. La deuxième catégorie, celle qui est interdite temporairement, par exemple, hein, par exemple, disons, la femme du frère, l'épouse du frère, hein, elle est interdite seulement temporairement pour le frère de son époux. C'est-à-dire que si le frère, hein, divorce son épouse, alors son frère, il peut épouser sa belle-sœur. Et la même chose, si son frère meurt, alors il peut épouser sa belle-sœur. C'est pourquoi la belle-sœur ne peut pas prendre haram. Pourquoi? Parce que il se peut qu'un jour il l'épouse. C'est pour ça qu'elle doit se cacher devant lui. Quand on dit se cacher, ce n'est pas ce que comprennent beaucoup de gens, qu'elle se cache, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans sa chambre. Et se cacher, c'est-à-dire ne pas se dévoiler devant lui. Ne pas se dévoiler devant lui. Naam, donc, il n'est pas possible pour une femme qu'elle prenne son beau-frère comme mahram. Parce qu'un jour, il se pourrait qu'il l'épouse. Naam, donc, par conséquent, elle ne peut pas voyager avec lui, ni se dévoiler devant lui. Tayyib. Il va commencer maintenant par la première catégorie. Celles qui sont interdites, les femmes qui sont interdites, éternellement. Naam. Il dit, la première catégorie, c'est-à-dire les femmes qui sont interdites éternellement, naam, sont cinq sortes. Naam. Wasmak, Ismaël, si tu peux seulement changer la couleur de l'écriture, parce que ton nom est en bleu et l'écriture est en bleu. Naam, si tu peux par exemple écrire en rouge, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je disais que les femmes qui sont interdites, il y a cinq sortes, ou bien cinq groupes. Celles qui viennent par la fiancée, celles qui viennent du côté de l'allaitement, celles qui viennent du côté du mariage, celles qui viennent du côté du li'an. Li'an, je ne sais pas ce que c'est en français, mais je vais vous l'expliquer. C'est le quatrièmement. Et cinquièmement, celles qui sont interdites éternellement par respect. Donc, je répète, les femmes qui sont interdites se divisent en deux. Ou bien interdites éternellement, ou bien interdites seulement temporairement. Premièrement, on parle de celles qui sont interdites éternellement. Elles viennent de cinq sortes. Naam. Ou bien, c'est par filiation. Naam. Ou bien c'est par allaitement. Ou bien c'est par zawaj, quand on se marie. Il y a certaines femmes, alors on ne peut plus se marier avec elles. Certaines femmes par rapport à ma femme. Naam. Par li'an, que je n'ai pas encore expliqué. Et ou bien par respect. Par li'an, je reviens à parler en quatrièmement, et je préfère dire chaque mot d'abord en arabe, ensuite en français. Donc les cinq sortes, premièrement, bin naseb, hein, par filiation, ma sœur, etc., bin naseb. Ensuite, bin rada, par allaitement. Trois, bin musahara, quand quelqu'un prend un gendre, se marie et a des gendres. Quatrièmement, bin li'an, c'est quand l'homme, par exemple, ne reconnaît pas, par exemple, la légitimité de sa femme. Il dit, par exemple, que ma femme a fait la zina. Naam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On l'a déjà dit. Ils vont aller chez le responsable, chez le cadi, par exemple, et lui, il va faire 5 fois un témoignage comme quoi, yani, il n'est pas un menteur, et elle 5 fois comme quoi, lui, c'est un menteur. Vous savez ça. Naam. Ça s'appelle l'i'an. Et ça ne peut se faire que devant un juge et un responsable. On ne peut pas les faire entre deux personnes, elles-mêmes à la maison, par exemple. Naam. L'époux et l'épouse ne peut faire cela que devant le responsable. Et cinquièmement, l'ihtiram. Cinquièmement, par ihtiram, par respect. Nous allons commencer, inshallah ta'ala, par le cinquième mot qui est le plus simple. Donc, il y a des femmes avec lesquelles on ne peut jamais se marier par respect. On ne peut jamais se marier avec elles par respect. Qui sont-elles? Quelle est la femme que je ne peux pas me marier avec elle par respect? Ce sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. Naam. La femme d'un messager d'Allah. Personne n'a le droit de se marier vraiment, vraiment empêché. De toute façon, Allah Ta'ala ne permettra pas un tel mariage se faire. Et personne ne peut se marier avec elle, même s'il veut. Et astaghfirullah, 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 même si elle le veut, alors que c'est impossible qu'elle veuille. Allah Ta'ala ne laissera pas un tel mariage se faire. Naam. Je disais, on ne peut pas se marier avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-Ahzab, verset 53. Sourate Al-Ahzab, verset 53. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Je répète, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah et lui faire du tort, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Et, Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, elle n'avait que 18 ans. Elle n'avait que 18 ans. Et elle n'a vécu avec lui que 9 ans. De 9 ans à 18 ans, subhanallah al-azim. 18 ans, c'est très jeune pour une fille, surtout de nos jours. À 18 ans, elle ne connaît pas grand-chose. Naam. Et subhanallah al-azim, regardez Aïcha, radiallahu ta'ala anha, la science qu'elle a pu prendre pendant les 9 ans. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas, naam, son cœur n'était pas, son cœur ne pensait qu'à ce qu'aime Allah et son prophète. Naam, elle n'avait ni les films, ni les films, ni le musulsalat, ni les documentaires, ni ceci, ni cela, ni les clips. Il n'y avait rien. Naam, elle, son cœur ne battait que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la science. C'était l'une des plus érudites de l'islam. Et les feuilletons, jazakallahu khair, les feuilletons égyptiens. Les feuilletons égyptiens, on apprend à la femme, comment vite elle divorce et elle jette son mari et elle prend un autre. Naam, on lui apprend comment aussi elle apprend à danser. Comment elle apprend à danser. Naam. Et suivre la déroute. Al-Muhim, c'est la plus érudite des femmes. Il n'y a aucune femme qui peut dire elle, radiallahu ta'ala, alors qu'elle est restée toute jeune. Le prophète alayhi sallam l'a laissée toute jeune à 18 ans, subhanallah al-azim, et les grands sahaba venaient lui poser des questions quand il y avait des choses compliquées. C'est elle qui avait la réponse, bi'idhnillahi azza wa jal, et vous savez que elle est morte vers 63 ans, 65 ans, subhanallah al-azim, combien qu'elle a pu supporter sans se marier, car il est interdit pour elle qu'elle se marie. D'ailleurs, qui dans sa situation, accepterait un autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce serait trop contradictoire si ça se faisait. Si ça se faisait, ce serait trop contradictoire. Une personne qui vit avec un ange, ensuite va se marier avec un autre vraiment de niveau très bas. Quoi qu'il soit, il est de niveau très bas comparé à quelqu'un comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont interdites jusqu'au jour du jugement dernier. Naam. Jamais elles ne seront permises. Deuxièmement, ça c'est le premier, la première sorte. Deuxième sorte, al-muharramat bin-nasab, celles qui sont interdites par filiation. Celles qui sont interdites par filiation. Naam. Et ici, il a commencé par alliance. Naam. Par alliance. Al-Mu'allif, rahimahullah, a dit la première, c'est l'homme. Naam. Al-Ismaïl de Marseille. Il faut être très sûr que Naam, que Nasab, c'est alliance. Hein? Il faut être très sûr. Car Moussahara, ça va venir que le Moussahara. Moussahara, je crois que c'est l'alliance. Quand on se marie avec une femme, Sira, ça devient Moussahara. Mais je pense que, regarde, il ne va parler que de la même famille. Il va dire la mère, la grand-mère, la fille, la sœur. Je crois que cela, Moussahara, parenté par alliance. Naam, maintenant, je ne parle pas de Moussahara. Ismaël, je parle de nasab. Nasab. Naam, je parle de filiation. Naam, naam. Et jazakallahu khairan. Donc, corrige, inshallah ta'ala, écrit de filiation. Naam. La première, c'est qui? Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, inshallah ta'ala. Tayyib, les émoticons sont partout. On ne peut pas les éviter. Naam. Je disais que la première, c'est la mère. La première des femmes interdites par filiation, c'est la mère. Allah Ta'ala dit dans le Coran, In ummahatukum illa allati waladnakum. Naam, in ummahatukum illa allati waladnakum. Il a dit, hurrimat alaykum ummahatukum. En principe, il devait donner le deuxième verset que je viens de citer. Hurrimat alaykum ummahatukum. Mais lui, il a cité le verset qu'il dit, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Il veut montrer que on n'a pas de mère, comme on ne peut pas avoir deux pères. Notre mère, c'est qui? C'est celle qui nous a enfantés. Naam. Mais le verset qui interdit la mère, c'est le verset qui est clair et Alhamdulillah. Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Ce n'est pas de moi. Tayyib. Les grands-mères sont interdites, qu'elles soient du côté du père et qu'elles soient du côté de la mère. C'est très connu. La mère de ma mère m'est interdite. Et la mère de mon père m'est interdite. Et on monte, et on monte. La mère de la mère de... Jusqu'à qui? Jusqu'à Hawa. Et la mère de mon père et sa mère et sa mère et sa mère. Et comme ça. Naam. والبنتو نعم والبنتو وبنت الابن وبنتهما est interdite aussi à vie la fille qui est sortie des reins de l'homme نعم sa fille ça veut dire sa vraie fille qui est sortie de ses reins نعم il est interdit à quelqu'un d'épouser sa fille وبنت الابن et la fille du fils, à condition, naam, la fille du vrai fils, son vrai fils, naam, et la fille de la fille, et on descend jusqu'en bas, naam, la fille du fils, ensuite la fille du fils du fils, la fille du fils du fils, et on descend, ensuite la fille de la fille, la fille de la fille, sa fille, sa fille, sa fille, et on descend, naam. Tayyib. قوله من حلال وحرام. Ensuite il a dit qu'elle soit, que ça soit de licite ou d'illicite, que ça soit de permis ou de yani pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va expliquer bien azawajal. Il a dit من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وطؤ من ولدتها مثل الزوج. Il a dit que ça soit يعني, halal ou haram. Halal par exemple, halal c'est la fille يعني, quand un homme se marie avec une femme qui lui est permise et il a une fille. Cette fille, il lui est jamais permis de se marier avec elle. Naam. parce qu'elle a été créée avec son nom. Elle a été créée avec son nom. Nam. Ensuite, il a dit, et la fille de la Zina. Nam, la fille de la Zina, lui est aussi interdite. Si un homme fait la Zina avec une femme, ensuite, il a une fille. Cette fille n'est pas sa fille chez Allah Ta'ala. Mais elle est la fille de la femme, pas de l'homme. Mais, en même temps, il ne peut jamais l'épouser. Quoique, subhanallah al-azim, elle devra se cacher devant lui et se voiler devant lui, parce que ce n'est pas son père. Mais malgré cela, subhanallah al-azim, malgré cela, il ne peut pas l'épouser. C'est pour ça en arabe, on dit qu'il y a une différence entre le mahram et le mahramiya. Naam. Entre le mahram, une femme est interdite pour le mariage, et malgré cela, on ne peut pas se dévoiler devant elle. Donc la règle qui, les gens croient que toute personne devant, qui nous est interdite pour le mariage, donc on peut se dévoiler devant elle. On dit attention à des exceptions. La fille de la Zina, Naam, disons son père, celui-là, il ne peut pas se marier avec elle. Et malgré cela, elle doit se cacher devant lui, se voiler. Sauf s'il se marie avec sa mère. Même si c'est un kafir, il se marie avec sa mère à l'église, place, elle peut donc se dévoiler devant lui. Donc, même si c'est une fille de Zina, elle reste interdite jusqu'à le jour de l'Qiyama. Ensuite, il a dit, وَإِنْ سَفَلَتْ نعم وإن سفلت كالبنت وبنت البنت وبنت نعم on a dit que la fille est toujours interdite qu'elle soit de zina ou qu'elle soit une fille naturelle يعني halal et toutes ses descendantes نعم la fille de cette fille ensuite la fille de cette fille et on descend toutes celles-là sont interdites on va pas dire c'est seulement ma fille qui est interdite mais la fille de ma fille et la fille de la fille de ma fille. Et comme ça, on descend. Naam. Ensuite, wa kullu ukhtin wa bintuha wa bintu ibnatiha. Ensuite, les femmes qui sont interdites à vie, ce sont les sœurs. Naam. Chaque sœur, naam, il est interdit de se marier avec elle. Soit, ça on kan shaqiqa ou li ab ou li um. Qu'elle soit consanguine, c'est-à-dire de père et de mère, une sœur de père et de mère, ou bien une sœur de père, ou bien une toute celle-là, hein, il ne peut pas les épouser. Donc ce n'est pas une condition nécessaire, il faut qu'elle soit une sœur de père et de mère. Non, si elle est seulement une sœur de père, il n'est plus permis de l'épouser. Et la même chose si elle est une père de mère. Une paire de mère, il ne lui est plus permis aussi de l'épouser. Wa bintu bintiha. Pardon, wa kadalika bintuha. Et. Non. Et. Sa fille. La fille de ma soeur. Et la fille de la fille de ma soeur. La fille de ma soeur. Et. La fille de sa fille, et on descend, Toutes celles-là sont interdites. Et la fille de son fils, bien sûr. Si ma soeur a un fils, et son fils a une soeur, c'est la même chose. Je ne peux pas me marier avec cette fille. Naam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devient quoi? Il devient un oncle. Naam, il devient un oncle. Par rapport à ces filles-là. Et un oncle ne peut jamais épouser ses nièces. Un oncle ne peut jamais épouser ses nièces. Ensuite, « وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنْتُهَا » Et celles qui sont toujours interdites à vie, la fille de chaque frère et sa fille. « épousée et la fille de son fils et sa fille. On va les expliquer. فبنت كل اخ حرام على اخيه. Chaque sœur, pardon, chaque fille de chaque frère est interdite. Chaque fille de chaque frère est interdite. Que ça soit un frère de sang ou bien que ça soit un frère de père seulement ou un frère de mère seulement. Non, ces filles sont interdites. Pourquoi? Car il devient son oncle. Il est son oncle. Il ne peut pas se marier avec elle. Et même si on descend plus bas. Naam. Et la fille de sa fille, et la fille de sa fille, et comme ça. Naam. لِأَنَّ عَمَّ الْأُمْ عَمُّ لِبَنَتِهَا. Parce que l'oncle de la mère, c'est l'oncle de ses filles. Si moi je suis un oncle par rapport à une femme, je suis son oncle. Donc, en même temps, je suis l'oncle de ses filles à elle. Naam. Comme je ne peux pas me marier avec la femme elle-même, je ne peux pas me marier avec ses filles. Je ne peux pas me marier avec ses filles. Et la même chose, et l'oncle du père, l'oncle du père, il est aussi oncle de ses filles. De ses filles, naam. Et ensuite, celles qui ne peuvent jamais se marier, celles يعني qui sont toujours interdits, restent toujours dans l'interdit. Al-ammatu wal-khala wa in'alata. Je ne sais pas comment. Al-ammatu, en arabe, c'est la fille, c'est la sœur du père. Naam. La sœur du père. Et la sœur de la mère, hein, elles sont interdites à vie. La sœur du père et la sœur de la mère sont interdites à vie. Même aussi, par exemple, la sœur du grand-père et la sœur du père du grand-père. Et on monte. L'amma, la tante paternelle. Naam. Naam. La sœur de mon père est toujours interdite. Et je monte. La sœur de mon grand-père et la sœur du père de mon grand-père. Et on monte jusqu'à Adam alayhi salam. Et la même chose pour la femme. Naam. La sœur de ma mère est interdite. Et ensuite, la sœur de ma grand-mère. Et la sœur de la mère de ma grand-mère. Et on monte jusqu'à Hawa, alayhi salam. Toutes celles-là sont interdites. Mais, là, il y a une petite exception. Mais, les filles de mes tantes, paternelles et maternelles, il est possible que je les épouse. Elles ne sont pas interdites pour moi. Naam. La fille de la sœur de ma mère, la fille de la sœur de ma mère m'est permise. Et la fille de la sœur de mon père m'est permise. Naam. Parce que elle commence à s'éloigner. Les cousines paternelles et maternelles sont permises. Naam. Tayyib. Ensuite, Cheikh Rahmo, il a dit, tout cela rentre dans le verset qui dit, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Sourate An-Nisa, verset 23. Tout cela, alhamdoulilah, est cité dans un seul verset. Il montre très clairement celles qui ne sont pas permises et celles qui sont interdites à vie. Il les a citées dans un verset où il a dit, vous sont interdites vos mères. Quand on dit mère, vos grands-mères et on monte. Hein? Vos filles, quand on dit filles, et leurs filles. Quand on dit sœurs aussi, sœurs et leurs filles. Naam. Tante paternelle et tante maternelle, sans leurs filles. Leurs filles sont permises. Naam. Ensuite, filles d'un frère et filles d'une sœur. Naam. Donc, il y a sept, si on compte bien. Vous allez en trouver sept. Vos mères, filles, sœurs, tante paternelle, tante maternelle, fille d'un frère, fille d'une sœur. Naam, sept. Amma bint Zani, quant à la fille, qu'on a eu par zina, la fille que la personne a eu par zina, pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle a été créée, premièrement, par son nom, et deuxièmement, elle rentre dans le verset où c'est dit « vous sont interdites vos mères, vos filles. » Naam, vous sont interdites vos filles. Et elle, c'est ta fille. Pourtant, chez Allah, ce n'est pas ta fille. Comment se fait-il qu'elle rentre ici dans le verset dans ta fille? Ça veut dire, c'est ta fille que Allah Ta'ala a voulu par volonté universelle. Mais que Allah Ta'ala n'a pas voulu par volonté juridique. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a voulu cette chose. Hein? Sinon, tu n'aurais jamais eu cette fille. Mais il l'a voulu d'une volonté, quoi? Universelle. Hein? Et pas juridique. Ça veut dire que Allah Ta'ala n'aime pas que tu aies fait ce rapport et cette relation pour avoir cette fille. Tu as fait un grand péché. Et elle, la fille, bien sûr, elle n'a aucun péché. Les grands péchés reviennent à cet homme et à la femme qui se sont associés pour donner cette fille miskina qui n'a rien fait et dont tous les malheurs vont tomber sur elle. Tous les malheurs vont tomber sur elle. Mais, alhamdoulilah en islam, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elle peut être l'une des plus pieuses. L'une des plus pieuses et l'une des meilleures quand elle va rencontrer Allah Ta'ala. Elle sera beaucoup, peut-être mieux, que d'autres qui sont naturels, de père et de fils, et de mère, subhanallah al-adhim. Naam. Car l'essentiel chez Allah Ta'ala, c'est la piété. Naam. C'est pas toi qui as voulu ce rapport. C'est ton père qui l'a voulu et ta mère. Ce sont eux qui vont répondre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'ils ont fait. Naam. Tayyib. Ensuite, Cheikh Lahmo dit que certains ulama disent que la fille de Zina est permise pour le mariage. Mais Cheikh Lahmo dit, ça c'est vraiment faible. Ça c'est un avis vraiment faible. Naam. Pour ceux qui disent que celui qui fait la Zina et il a une fille, il peut se marier avec elle, se basant sur quoi? Se basant sur qu'elle se voile devant lui et c'est une étrangère et c'est pas sa vraie fille. Ils ont dit donc qu'il peut se marier avec elle. Et Cheikh Lahmo a montré que c'est un avis très faible et qu'il ne faudrait pas prendre cet avis. Mais l'avis le plus juste, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, il lui est interdit de se marier avec elle parce qu'elle a été créée de son propre liquide. Naam. Ensuite, il a dit Cheikh Lahmo, si seulement, naam, une fille tête seulement une autre femme, comme vous savez, plus de 5 fois dans les 2 premières années, elle devient interdite. Elle devient interdite pour le mariage seulement en tétant la poitrine d'une femme. Alors, qu'en est-il, subhanallah al-adhim, tu as été la cause pour que cette femme ait été créée. C'est toi qui as été la cause. C'est avec ton mot qu'elle a été créée. Imagine, si tu lui donnes, ta femme lui donne un peu de lait, elle devient haram. Alors, comment se fait-il que tu sois maintenant toi la cause de sa création, bi-idnillah, et elle est halal? C'est impossible. Naam, c'est impossible. Donc, inshallah ta'ala, l'avis le plus juste et autour duquel la plupart des ulamas yani, se regroupent, c'est qu'il lui est interdit, il est interdit de se marier avec la fille de la fornication. Maintenant, on a terminé avec par filiation, on a terminé avec par respect, on va à Al-Mala'in. C'est quoi le Mala'in en français? C'est quoi le Mala'in? On a dit tout à l'heure, c'était quoi le Mala'in? Tu avais écrit quoi? Imprécation, ou je ne sais pas quoi. Imprécation. Naam. Tayyib. Wal-Mula'anatu hiya allati ramaha zawjuha biz-zina wa lam tuqir bihi. Al-Mula'ana, c'est quoi ici? Il dit, c'est la femme. Naam. La femme qui, son mari lui a dit, tu as fait zina. Et elle ne reconnaît pas. Son mari lui a dit, tu as fait zina et elle ne reconnaît pas. Ou bien il dit aussi, l'enfant ne m'appartient pas. Tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte de moi. Ça revient à la même chose. Si tu n'es pas enceinte de moi, c'est que tu as fait zina. Naam. Car des fois, pourquoi je fais la différence? Des fois, il peut lui dire, tu as fait la zina, mais reconnais l'enfant. Naam, tu es enceinte, je sais que l'enfant c'est mon enfant, mais tu as fait la zina. Mais des fois, il ajoute autre chose, il reconnaît même pas l'enfant. Il dit, tu as fait zina et l'enfant n'est pas mon enfant. Naam. Donc, quand un homme accuse sa femme de zina et il ne peut pas avoir de délit, comment va-t-il faire pour ramener quatre témoins? Les témoins, hein, qui vont bien témoigner qu'ils ont vu la zina. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, maintenant, elle est libre. Ou bien, elle demande qu'on le juge, ou bien, elle se tait. Maintenant, si elle demande qu'on le juge, elle va chez le juge, elle dit, celui-là, il dit que j'ai fait la zina, etc. Il n'a pas preuve. Il n'a pas de preuve. Alors, le juge va les convoquer les deux et il va dire à l'homme, témoigne sur ta femme, quatre fois. Naam, qu'elle a fait la chose. Et cinquième témoignage, que la malédiction d'Allah soit sur toi si tu es un menteur. Et il va faire ainsi. Devant le juge et les témoins, il va témoigner quatre fois par Allah. Que quoi? Que il n'est pas un menteur, c'est-à-dire qu'elle a fait. Et la cinquième fois, que la malédiction d'Allah soit sur moi si j'ai menti. Naam. Alors, maintenant, on va demander à elle. On va lui dire, tu vas faire la même chose que lui. Et elle va choisir entre deux choses. Ou bien faire comme lui, ou bien ne pas faire. Si elle fait comme lui, elle va témoigner quatre fois. Elle va témoigner quatre fois que quoi? Que c'est un menteur dans ce qu'il a dit. Je témoigne que c'est un menteur quatre fois. Et la cinquième, que le courroux d'Allah et la colère d'Allah est sur elle si c'est une menteuse. Naam. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a assisté une fois à une imprécation, naam, il a dit que, yani, est-ce que l'un de vous, est-ce que vous voulez faire la tawba? Allah Ta'ala sait que l'un de vous est un menteur. L'un de vous est un menteur. Car c'est impossible que les deux jurent par Allah cinq fois que l'autre est un menteur. C'est impossible. L'un des deux est un menteur. C'est pour ça que il est de la sunna, avant de passer au deuxième conjoint et faire l'imprécation, de leur faire un petit rappel. De leur rappeler que, attention, le châtiment d'Allah est sévère. Et l'un de vous est un menteur. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, la femme, elle a fait une moula'ana. Maintenant, si elle ne fait pas de moula'ana, si elle dit non, après que lui, il a témoigné cinq fois, elle a dit, moi, je ne témoigne pas. Si elle ne témoigne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être lapidée. Ça veut dire que, voilà la preuve. Voilà la preuve. Son mari a témoigné cinq fois, elle ne veut pas témoigner. Non, elle s'est abstenue, donc c'est une preuve qu'elle a fait. Sinon, pourquoi tu témoignes quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est pour ça que celui qui a peur d'Allah, sûrement qu'il ne va pas témoigner. C'est grave pour lui. Alors que personne ne peut savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, personne ne peut vérifier. Tu jures seulement, tu témoignes cinq fois et tu vas à la maison, alhamdoulilah, tu n'as plus de problème. Mais le grand problème, c'est quand tu vas rencontrer demain Allah Ta'ala. Non, et les malheurs qui vont t'arriver dans cette dunya. Al-Muhim. Si maintenant une femme accepte de témoigner cinq fois, après que son mari ait témoigné cinq fois, on les sépare. Depuis l'instant où elle a témoigné cinq fois, elle se sépare de son mari d'une séparation éternelle. C'est ça le témoin du Dars. C'est-à-dire, elle ne peut jamais plus dans sa vie se remarier avec cet homme. Si après un an, après 6 mois, après 2 ans, il vient. Il lui demande sa main. S'ils vont se remarier, ils sont dans la zina. L'islam ne leur permet plus de se marier. Attention. Et si elle a fait l'imprécation comme ça 5 fois, son fils, si elle avait un enfant, et son fils, et quiconque, après l'imprécation des deux époux, quiconque dit qu'elle a fait la zina, on doit quoi? On doit le fouetter 80 coups de fouet. 80 coups pour avoir dit que elle a fait la zina. Alors elle, elle a juré, et tu l'as entendu cinq fois jurer, que son épouse est un menteur. Et toi, tu vas dire maintenant, elle a fait la zina. Pourquoi tu ne dis pas son époux est un menteur? Pourquoi tu dis elle a fait? Alors, on va te fouetter. Et la même chose pour quiconque dit que son fils est un enfant de zina. Celui-là, il va être fouetté aussi. 80 coups de fouet. Naam. Donc, c'était l'autre cas. C'est quel cas? Une femme, quand elle fait l'imprécation avec son mari, elle ne peut plus jamais se marier avec lui. Naam. Tayyib. On passe à autre chose. Maintenant, grande 2. Ah, maintenant, autre chose. Quelles sont les femmes qui sont interdites par l'allaitement? Quelles sont les femmes qui sont interdites par l'allaitement? On a vu les femmes interdites par respect. On a vu les femmes interdites par filiation. On va voir des femmes qui sont interdites par allaitement. Naam. Wa yahrumu birraza'i ma yahrumu bin nasab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, dans le Bukhari et dans le Muslim, il a dit, sont interdites par l'allaitement celles qui sont interdites par affiliation. Le prophète alayhi wa sallam a dit, toute femme qui est interdite par affiliation devient alors interdite par allaitement. C'est-à-dire que, on va bien expliquer ça veut dire cela, quand une femme, quand une femme est allaite un enfant, quand une femme allaite un enfant, cet enfant, il devient son fils. Pourtant, elle l'a pris de sa voisine, c'est l'enfant de sa voisine. Mais, il aura donc deux mères. La vraie mère, qui est l'autre, la voisine, et la vraie mère, sa mère, et celle-là, la voisine, qui vient de l'allaiter. Elle devient sa mère par allaitement. Non, elle devient sa mère par allaitement. Et le fils de cette mère qui l'a allaité, donc, sera son frère par allaitement. Et la fille de cette fille sera quoi? Sera sa sœur par allaitement. Et le père de la femme qui l'a allaité, le père de la femme qui l'a allaité, devient son grand-père maternel par allaitement. Et la mère de la mère qui l'a allaité devient la grand-mère maternelle par allaitement. Et comme ça. C'est ça ce que veut dire le hadith. Il veut dire que la parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. Naam, la parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. Tayyib, on va expliquer ici aussi. Donc, تحرم الأم من الرضاع. Donc, sont interdites pour le mariage qui? La mère par allaitement. La fille par allaitement. La sœur par allaitement. La fille de la sœur par allaitement. La fille du frère par allaitement. La tante paternelle par allaitement. La tante maternelle par allaitement. Exactement comme ce qu'on a dit tout à l'heure dans celles qui sont interdites par filiation. Maintenant, c'est la même chose, mais elles ne sont pas interdites par filiation, mais elles sont interdites par quoi? Elles sont interdites par allaitement. Naam. Tayyib. Mais il faut que dans cet allaitement, il y ait des conditions. Il faut que dans cet allaitement, il y ait des conditions. Première condition. أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر. هذا هو القول الراجح. La première condition, il faut que l'allaitement, il faut qu'il soit au moins cinq fois. Cinq fois. C'est-à-dire que si on allait un bébé quatre fois seulement, il n'est pas notre fils. Non? Il faut l'allaiter cinq fois au moins. Car Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit dans le hadith sahih, Sahih, rapporté par Muslim, que auparavant, c'était dans le Coran, 10 allaitements interdisés, ensuite, elles ont été abrogées par 5. 5 allaitements interdisent. 5 allaitements interdisent. Ça veut dire, فَإِذَا نَقَسَ عَنْ خَمْسٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ. Ça veut dire, si on allait quelqu'un 4 fois seulement, il n'est pas notre enfant. Naam. Le Cheikh Lahmou dit ici, وَلَا نَقُلْ وَلَا تَقُلْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّبِعَةِ وَالسَّدِسَةِ مَثَلًا أو الْخَامِسَة. Il dit, ce n'est pas la peine de nous dire pourquoi, quand il allait 5, il devient yani mon enfant. Si je l'allaite 5 fois, il devient mon enfant. Et si je l'allaite 4 fois, il ne devient pas mon enfant. Pourquoi? Non. Ensuite, tu vas poser une autre question. Pourquoi c'est 5 et pourquoi ce n'est pas 6? Pourquoi? Si je l'allaite 5 fois, c'est mon enfant. Si je l'allaite 6 fois, ce n'est pas mon enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va répondre ici? On va répondre, si Allah Ta'ala avait voulu montrer la sagesse, il l'aurait montré. Allah Ta'ala ne montre pas toujours la sagesse de la chose. Mais chaque chose a une sagesse. Et le fait que nous, on ne sache pas et on ne connaisse pas la sagesse, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est comme si quelqu'un qui est aveugle, il va dire « je ne vois pas le soleil ». On ne va pas dire donc « il a raison, il n'y a pas le soleil ». On lui dit « non, c'est toi seulement qui ne vois pas le soleil parce que tu es aveugle ». Mais nous, alhamdoulilah, qui ne sommes pas aveugles, on voit le soleil. Et c'est la même chose, celui qui ne comprend pas et ne connaît pas la sagesse, ça ne veut pas dire que la sagesse n'existe pas. C'est comme l'aveugle, quand il ne voit pas, ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le soleil existe, c'est l'aveugle qui ne le voit pas. Et c'est la même chose, la sagesse existe dans tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le grand sage, ça. Donc, maintenant, si on la comprend, on ne la comprend pas, qu'est-ce qu'on doit dire? Sami'na wa ata'na. Allah ta'ala m'a ordonné de lui obéir. C'est tout ce que je sais. Je lui obéis. J'ai des hasanats et je lui désobéis. J'ai des péchés, je vais en enfer. C'est tout ce que je sais. Naam. Ensuite, si on dit cela, donc on va dire aussi pourquoi le dhor c'est 4. Pourquoi le dhor c'est pas 5. Ensuite, pourquoi le maghrib c'est spécialement 3. Pourquoi le maghrib c'est pas 4. Et pourquoi le subh c'est 2. Et, ça n'en finit pas. On va perdre dans notre temps dans des choses qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas de réponse. Non, passer le temps dans des choses qui n'ont pas de réponse. Non, moi, l'essentiel, c'est quoi? Allah Ta'ala m'a créé pour l'adorer. Il m'a dit, fais cette chose, la fais. D'ailleurs, jusqu'à présent, beaucoup de choses, yani, beaucoup de jugements d'Allah Ta'ala, on ne connaît pas leur sagesse. Mais on les fait, et on dit quoi? On dit, sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'obéis. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous dire d'une façon, et nous répondre d'une façon, yani, sans doute, d'une façon sûre et certaine, pourquoi Allah Ta'ala a interdit le porc? Pourquoi le porc on ne mange pas? Certains ont dit parce qu'il est sale, certains ont dit parce qu'il n'a pas de jalousie, il n'est pas jaloux. Donc quelqu'un qui mange, il ne devient pas jaloux de sa femme. Certains ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui montre? Il n'y a pas. Allah Ta'ala n'a pas voulu que je sache. Est-ce que, puisque je ne connais pas la cause, je vais dire alors je vais manger? Ah, moi je n'ai pas trouvé la cause, donc je mange. Non, je reviens à quoi? Je reviens à la sagesse générale, qui est quoi? Qui est l'adoration. Comme ça disent les ulama, ils disent, quand tu ne connais pas la sagesse d'un jugement précis, alors reviens à la sagesse générale, qui est adorer Allah Azza wa Jal. Tu n'as été créé que pour l'adorer. Et Omar ibn Khattab lui-même, radiyallahu ta'ala anhu, quand il arrivait à la pierre noire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je sais, Wallah, que tu ne fais ni du bien ni du mal. Mais que j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani te toucher ou bien t'embrasser. Et si je n'avais pas vu le prophète alayhi wa sallam, faire cela, Wallah, je ne l'aurais pas fait. Non. Donc, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lui-même ne sait pas pourquoi on touche la pierre noire. Subhanallah. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit, l'essentiel c'est que j'ai vu le prophète alayhi te toucher, donc je te touche. C'est comme s'il voulait dire, la sagesse ici c'est quoi? C'est l'adoration, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la sagesse. Et le fait que Omar radiallahu ta'ala anhu ne sache pas quelle est la sagesse et la hikma, et que nous on la connaît, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que Omar radiallahu ta'ala anhu. Car vous savez que tout le monde, il se peut que beaucoup de gens, yani, même ce sont les plus rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne connaissaient pas certains hadiths. Naam. Et c'est quoi la hikma, la sagesse de toucher la pierre noire? Car il y a un hadith sahih, apporté par Cheikh Al-Albani, il a été authentifié, dans Sahih Al-Jama', où il dit que quiconque touche la pierre noire, le jour de la rétribution, naam, elle quoi? Elle témoignera en sa faveur. Elle témoignera en sa faveur. Naam. Donc, c'est quoi la première condition, on disait? On disait la première condition, il faut que ça soit 5 allaitements. طيب. وقيل إنه يثبت التحريم بثلاث. Et certains ont dit que 3 allaitements suffisent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, rapporté par Muslim, il a dit لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المصة والمصتان. نعم. Hadith Muslim. Dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'interdit pas, c'est-à-dire, elle ne rend pas l'enfant notre enfant. Quoi? Il a dit, al-massatu ou al-massatan. Yani, disons, comment on dit al-massatu ou al-massatan? Le fait, par exemple, de prendre la tétée une seule fois. Et al-massatan, ou bien de prendre, j'ai dit la tête, ou bien de prendre le mamelon de la mère deux fois. Il a dit ça, ça n'interdit pas, ça ne rend pas l'enfant qui a fait cela, il ne devient pas notre enfant. C'est-à-dire une fois et deux fois ne rend pas l'enfant notre enfant. C'est un hadith sahih. D'autres ont pris par le contraire de ce hadith, puisque le hadith a dit que une fois et deux fois, ça ne rendait pas l'enfant notre enfant. Donc si c'est trois fois, ça le rend. Ça s'appelle en arabe le mukhalafa. Naam, ça s'appelle en arabe mufhum al-mukhalafa. Naam, mais ça c'est faible. Pourquoi? Comparé au hadith qui est clair, subhanallah al-azim, et qui nous donne le jugement, pas par mufhum, pas par contraire. Naam, mais comme ça clairement, il dit 5. Aïcha dit, naam, 5 allaitements font de l'enfant un enfant. Il faut qu'il soit 5. Naam. Donc c'est plus clair que le deuxième hadith. C'est plus clair que le deuxième hadith. Tayyib. Tayyib, maintenant, c'est quoi Ar-Rada? Maintenant, on est tous d'accord pour dire que il faut quoi? Il faut 5, disons, allaitements. Il faut 5 allaitements, si je puis dire. Tayyib, Ismaël, vous êtes là, vous m'entendez? J'ai peur de me déconnecter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, maintenant, ils sont tous unanimes à dire que pour qu'un enfant devienne un enfant pour la femme qui l'a allaité, il faut qu'il y ait quoi? 5 allaitements. Mais comment définir un allaitement? Comment définir un allaitement? Naam. Est-ce que si l'enfant, naam, dans un seul temps, la femme le met, yani l'approche de sa poitrine, naam, et lui donne sa poitrine et il tète 5 fois. Il met sa bouche sur son mamelon une fois. Et il le retire. 2 fois. Il le retire. 3 fois. Il le retire. 4 fois, 5 fois. Est-ce que cela, c'est 5 allaitements ou c'est un seul allaitement? Naam. Donc certains disent que s'il fait comme ça 5 fois, il est devenu son enfant. Ou bien, est-ce que on compte l'allaitement quand il commence à sucer ou là, à téter, jusqu'à ce qu'il retire sa bouche lui-même. Ensuite, il revient vers le maman de sa femme. Il tète, il tète, il tète, il tète. Ensuite, il lâche. Ça, ça fait deux. Ensuite, il tète, il tète, il tète. Ensuite, il lâche. Hein? Est-ce que c'est ça l'allaitement? Ou bien enfin, est-ce que l'allaitement, c'est comme le repas? Le repas, c'est quand tu manges tout ce qu'il y a. Ce n'est pas, tu prends avec ta main, tu mets dans ta bouche une fois, une bouchée, tu dis, classe, j'ai mangé. Il faut manger de ceci, cela, jusqu'à ce que tu termines, tu te lèves. Là, c'est un repas. Certains ont dit, c'est ça l'allaitement. C'est-à-dire, on donne l'enfant à la femme, elle lui donne sa poitrine, il boit, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Salam alaykoum wa rahmatullah. Fais saut. Alhamdoulilah. Est-ce que... GTO. Est-ce que vous avez compris la divergence des ulama? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'allaitement? C'est quoi l'allaitement? Est-ce que vous avez compris les trois avis? J'ai cité trois avis. Vous les avez entendus? Dites-moi, est-ce que vous avez entendu les trois avis? Et ensuite, j'ai dit que ce qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, j'ai dit lequel des avis il a choisi. Est-ce que vous avez entendu ça? Non? Vous étiez à quel avis? J'étais au premier avis ou là-haut? Taïb, ça ne fait rien. Un avis. Taïb, vous êtes d'accord avec moi? Tous les ulama sont d'accord pour que l'enfant soit un enfant, l'enfant qu'on allaite soit un enfant, il faut qu'il y ait 5 allaitements. Mais c'est quoi l'allaitement? Il y a 3 avis dans qu'est-ce que ça veut dire l'allaitement et comment le définir. Certains disent, Nam, s'il prend comme ça, Nam, s'il prend d'un seul trait, yani, 5 fois, c'est-à-dire il met sa bouche sur le mamelon une fois et il lâche vite. 2 fois, 3 fois, il fait, il met, il lâche. Ils ont dit que c'est un allaitement. Le deuxième avis dit, Nam, s'il commence, il met sa bouche sur le mamelon de sa mère et il commence à tirer, c'est-à-dire à téter. Ensuite, tout seul, il lâche. Il lâche quoi? Il lâche la poitrine de sa mère. Ensuite, il attend un peu et il reprend. Il dit ça, c'est un allaitement. Ensuite, s'il reprend, jusqu'à ce qu'il s'arrête, c'est un deuxième allaitement. Ensuite, il reprend tout seul le mamelon de la femme et il tète jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. C'est un troisième allaitement et comme ça. Et le troisième avis dit que, Naam, il faut que ça soit, l'allaitement c'est comme un repas. C'est quoi comme un repas? Cet avis dit que, quand on s'assoit pour manger, on ne va pas se suffire de quelques bouchées. Mais il faut qu'on mange jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin. Donc d'après le troisième avis, l'enfant qu'on allaite va devenir notre enfant. Quand est-ce que quand la femme lui donne sa poitrine et il commence à téter, ensuite par exemple, il lâche la poitrine. Ensuite par exemple, il commence à téter, ensuite il lâche. Ensuite il tète. Tout ça, ça compte seulement un allaitement. Ça compte seulement à un allaitement. Ensuite, le soir, par exemple, là, le lendemain, elle va prendre l'enfant, lui donner encore sa poitrine. Il va téter, je ne sais pas combien de fois, s'arrêter. Téter, s'arrêter. Tout ça, ça compte un allaitement. Ensuite, dans 3 semaines ou là, 1 mois ou je ne sais pas quand, on lui donne l'enfant. Elle va lui donner. Naam, il boit. Naam, tout ça, tant que ça se passe dans une même assise, même s'il prend la poitrine de sa mère 20 fois, ça compte seulement un allaitement. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la vie de Cheikh Ibn Uthaymin Rahmou. Il a pris la vie de son professeur, Cheikh Sa'di Rahimahullah. Donc, d'après Cheikh Ibn Uthaymin et d'après Cheikh Sa'di, cinq allaitements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour définir l'allaitement, un allaitement, c'est il tète jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Ensuite, s'il revient dans la même assiette, ça compte seulement l'allaitement. C'est-à-dire, ça devient un autre allaitement si la femme, classe, a caché sa poitrine et a éloigné de lui son enfant. Ensuite, une heure après, ou deux heures, ou un mois, on lui a rendu l'enfant. Et elle lui a donné de nouveau, ça va être un deuxième allaitement. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Sa'di Rahimahullah. Seulement, je voudrais vous dire que l'avis de la plupart des ulamas, Cheikh Fouzan et les autres, la plupart disent que Naam, le deuxième avis est le plus juste, disent. C'est quel avis? C'est que, et c'est aussi l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, quand la femme donne sa poitrine à l'enfant. Naam, la femme donne la poitrine à l'enfant. Il commence à téter. Naam, il tète, à du moment où l'enfant va délaisser la poitrine tout seul, soit pour respirer, soit ensuite, il reprend la poitrine, on lui compte la première tétée. On dit, voilà, il a fait déjà un allaitement. La preuve, il a tété, ensuite il s'est arrêté tout seul. Ensuite, il a repris la poitrine de sa mère. Il tète, ensuite il s'arrête pour respirer ou pour rire ou pour je ne sais pas quoi. On va compter ça un deuxième allaitement. Naam. Mais à condition que le fait qu'il lâche la poitrine de sa mère ne soit pas dû à une cause extérieure. Par exemple, quelqu'un casse sans le vouloir une bouteille. Lui, de peur, quand il entend la chose qui se casse, de peur, il va lâcher la poitrine de sa mère. Ça ne compte pas un allaitement. Pour que ça soit un allaitement, il faut que ça soit de lui-même qu'il délaisse la poitrine pour souffler, ou là parce qu'il n'en veut plus. Ensuite, il revient vers la poitrine. À chaque fois qu'il délaisse, yani, sans qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui soit la cause, et il revient vers la poitrine, on lui compte un allaitement. Ça, c'est l'avis de la plupart des ulamas. Moi, personnellement, Inch'Allah ta'ala, je suis convaincu par cet avis, et vous, Inch'Allah ta'ala, vous êtes convaincu par l'avis qui, Inch'Allah ta'ala, vous convient le plus. Lisez et regardez, Inch'Allah ta'ala, ce que vous prenez. Moi, je prends cet avis, il est plus prudent. Naam, il est plus prudent. Le fait qu'il ait fait comme ça, naam, ça se peut que khlas, c'est un enfant, donc c'est plus prudent de ne pas le marier, etc. Et quand je dis mon avis, je ne suis pas, yani, certains peut-être vont croire que je suis de, yani, j'ai un avis parce que je suis un alim, ou là, je ne suis rien. J'ai dit seulement que, naam, moi, yani, je penche, c'est tout, à cet avis, parce que c'est l'avis de Al-Fawzan, c'est l'avis de Cheikh Taymiyyah, c'est l'avis de beaucoup, beaucoup de ulama. Et moi-même, qu'on prenne avec cet avis ou l'autre, l'essentiel, on n'a pas pris de notre tête, bi'idhnillah et azza wa jal. Tayyib, maintenant une chose très importante. Est-ce que, naam, la deuxième, la première condition, c'était quoi? C'était, il faut que ça soit 5 allaitements. Il faut que ça soit 5 allaitements. Quelle est la deuxième condition? Il faut que ça soit pendant les 2 années. Il faut que ça soit pendant les 2 années, car le hadith...
Naam, jazakallahu khair, il est tombé, ça. Jazakallahu khair, il est tombé, barakallahu fik.
Naam. Je disais, la première condition, 5 allaitements. La deuxième condition, il faut que ça soit pendant les 2 ans. Naam, il y a un hadith qui est clair et qui dit que il faut que ça soit pendant les 2 ans. Mais ici, il y a un petit problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que est-ce que vraiment la condition, la deuxième condition, il faut que ça soit pendant les 2 ans, même si à partir de 6 mois ou à partir d'une année,
il ne boit plus le lait. Maintenant, il est en train de manger, par exemple. Il mange et il boit à la fois. Ou est-ce que, à partir du moment où il ne boit plus le lait, bien, ne se suffit pas au lait, mais mange des choses avec de lait, avec le lait, est-ce qu'à partir de ce moment, si on l'allait, par exemple, on le donne à une autre femme pour l'allaiter, il ne peut pas être son fils. Pourquoi? Parce que il a été allaité après qu'il n'avait plus, yani, ne se suffisait plus au lait, mais manger avec du lait, des biscuits, et manger un peu la chorba et je ne sais pas quoi. Donc, c'est quoi l'avis le plus juste ici? Car en fait, il y a un hadith rapporté par Tirmidhi, un hadith sahih, qui dit en arabe, la raza'a, il n'y a pas d'allaitement, illa ma fataqa al-am'a, wa kana qabla al-fitam. Et dans un autre hadith, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allaitement, sauf l'allaitement qui fait pousser et qui fait, comment dire, qui fait fortifier les os, et donne de la chair, fait naître, la chair, l'ahm, naam. Donc, et ça, la plupart du temps, ça peut se passer, c'est-à-dire avant les 2 ans. Mais, Inch'Allah ta'ala, la vie le plus juste, c'est quoi? La vie le plus juste, bi'idhna azza wa jal, c'est que l'essentiel, c'est que l'enfant n'ait pas 2 ans. Naam. Une femme dit, je veux, par exemple, élever un enfant de l'assistance publique. Naam. Mais cet enfant a 1 an, mais il ne boit plus de lait, par exemple. Ou bien, il boit du lait et il mange avec le lait. Est-ce que je peux l'allaiter ou je ne peux pas? Naam. On lui dit, Inch'Allah ta'ala, la vie le plus juste, c'est que tu regardes l'âge. Tant qu'il n'a pas 2 ans, alors, Inch'Allah ta'ala, tu peux l'allaiter 5 fois, et il sera, Inch'Allah ta'ala, ton fils. Aussi, il y a des gens qui demandent, ils disent, 2 ans, Hijri, non, Hijri, pas Miladi. Toujours Hijri, il n'y a pas en islam Miladi. Ça n'existe pas. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est certaines femmes, par exemple, les demandent et disent, Nam. Certaines femmes disent, Nam, est-ce qu'il est permis de prendre un enfant de la zina? Un enfant de la zina et de l'élever, lui donner du lait, etc., l'allaiter pour qu'il devienne notre enfant. La réponse, Inch'Allah ta'ala, en principe, c'est permis. Pourquoi? À cause de 2 choses. La première des choses, il n'a rien fait. Qu'a fait l'enfant de la zina? On l'a expliqué tout à l'heure. La faute incombe à son père et à sa mère. Lui, miskin, il n'a rien fait. Et peut-être, demain au paradis, avec les messagers, les bienfaisants, et les martyrs, etc. Non, mais dit premièrement. Deuxièmement, Inch'Allah ta'ala, tu as beaucoup de récompenses. Car si toi, tu ne le prends pas, les kuffars vont le prendre et vont faire de lui un kafir. Donc en le prenant toi, Inch'Allah ta'ala, tu gagnes quoi? Tu gagnes que de par ta cause, il a été un musulman. Et il va rentrer au paradis, tu en seras la cause. Imagine qu'est-ce qui t'attend demain comme récompense. Naam. Mais les ulama ont dit, on ne le prend pas dans un cas. Dans quel cas? Si on sait que, à cause de nous, naam, à cause de nous, ça va être la cause pour que les femmes, alors, vont faire la zina et vont se dire, puisqu'il y a des gens qui le prennent, moi, je fais la zina et je le jette comme ça dans la rue. Une seconde, Inch'Allah, t'as le téléphone, c'est peut-être urgent. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute. Naam. Hayyakumullah, alhamdulillah. Jazakumullah au khair. Tayyib, je disais que, une seconde, Inch'Allah. Une seconde. Naam, astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam, une seconde, Inch'Allah. Tayyib, je dis, Inch'Allah ta'ala, naam, sauf dans un cas où on ne peut pas prendre l'enfant de la zina, si je dis, on va être la cause, naam, pour exhorter les femmes à faire la zina et à le jeter. Elles disent, on sait que il y a des femmes qui, il y a des familles qui vont le prendre. Mais maintenant, excusez-moi, tellement la zina et la fornication, tellement yani, elle est répandue que maintenant, yani, il ne reste que le choix de le prendre. Le meilleur choix maintenant, c'est de prendre l'enfant et de lui donner une éducation, yani, une éducation religieuse, et de, inshallah ta'ala, se dire dans l'intention que demain, je rencontrerai Allah ta'ala avec, j'ai quoi? J'ai élevé un orphelin, bi'idhnillahi azza wa jal. Tayyib. On va passer à autre chose. Non. Maintenant, si une femme, non, si une femme, bi'idhna azza wa jal, yani, est vierge, ne s'est jamais mariée, peut-elle, yani, en donnant du lait, en donnant du lait, peut-elle faire de sorte que cet enfant soit son enfant, ou bien il faut qu'elle soit mariée, ou bien il faut qu'elle soit mariée. Le madhab, d'après l'avis hanbalite, il faut que cette femme soit mariée et enceinte aussi. Non, mariée et enceinte. Car vous savez que le lait, en principe, il vient de quoi? Comment se fait-il que la mariée a le lait et la vierge n'a pas le lait? Parce que le lait, il est poussé par qui? Par son mari. Naam, son mari, en faisant avec elle le rapport, naam, ça pousse à donner le lait chez la femme quand elle devient enceinte. C'est pour ça que la vierge, yani, en général, n'a pas de lait. Mais, Cheikh Larmo dit ici que l'avis le plus juste, naam, l'avis le plus juste, même si elle peut avoir du lait sans être mariée, Naam, sans être marié, une seconde, Naam, ce sera alors son fils. Il sera alors son fils. Naam, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'elle a le lait. Est-ce que maintenant ça peut se concevoir qu'une femme ait le lait sans se marier? Allahu alam. Mais si ça venait à se concevoir, Shirdi, Allahu Naam, il devient son fils de lait et ce n'est pas une obligation qu'elle soit mariée. Et ce n'est pas une obligation, inshallah ta'ala, qu'elle soit mariée. Mais comme j'ai dit, le madhhab Hanbali fait de cela une condition. Il dit qu'il faut qu'elle soit mariée. Le Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo, qui suit beaucoup les délils, sort du madhhab et dit que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, bi'idhnillahi ta'ala. Mais l'essentiel, c'est qu'elle lui a donné le lait. Naam. Tayyib. Une chose, inshallah ta'ala, une autre chose. Maintenant, est-ce que le fait d'allaiter quelqu'un qui a dépassé les 2 ans, est-ce que ce lait donne l'interdiction ou ne donne pas? Est-ce que ce lait donne l'interdiction ou ne donne pas? Et on doit, bi'idhnillah azza wa jal, pour concevoir cette chose, on doit penser à 2 choses. La première, le hadith qui est connu de Salam, qui est l'histoire qui est très connue, Mawla Abi Hudayfa, Naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme lui a dit que quoi? Qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez elle, etc. Et que maintenant, c'était difficile pour elle qu'il rentre à chaque fois. Et en même temps, il vit avec eux. Car c'est le fils adoptif de son mari. Ou quelque chose comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé alors à la femme qu'elle l'allaite. Pour qu'il devienne son fils. Et cet homme a été allaité, quoique âgé. Il avait peut-être 22 ans, peut-être 25, peut-être 30, peut-être plus. Elle l'a allaité et il est devenu son fils. Et à partir de ce jour-là, il rentrait chez elle et se dévoilait devant lui. Et le hadith, bien sûr, est sahih dans Bukhari et Muslim, est très très connu le hadith. Al-Muhim. Maintenant, comment se fait-il qu'elle ait allaité, naam, à cet âge-là? On va dire qu'elle a allaité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Et comment se fait-il qu'alors elle lui ait donné sa poitrine? La réponse, ce n'est pas obligé qu'elle lui donne sa poitrine. Mais elle va faire sortir un peu de lait de sa poitrine et le mettre, par exemple, dans un verre. Naam, et lui donner à boire. Naam, peut-être 5 fois consécutivement. Naam, ou bien chaque jour une fois comme ça. Naam, et il deviendra son enfant. Tayyib, mettre son enfant de lait. Maintenant, est-ce que cette chose est toujours applicable ou bien c'était seulement une permission pour la femme elle, et spécialement une particularité pour elle. Naam. Ismaël, cherche-moi ce qui est la femme elle, son nom, etc. Naam. Est-ce que c'est une particularité pour elle ou bien pour tout le monde, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tu cherches dans Mawla Hudhaifa. Naam. Mawla Hudhaifa. Tayyib. La réponse, les ulama ont beaucoup divergé ici. Certains ont dit, ça c'est abrogé, khlas. Naam, c'était seulement pour cette femme et cet homme. Naam. Et Cheikh bin Uthaymin a choisi le milieu. Il a dit, ça se fait seulement pour quelqu'un qui élève quelqu'un. Naam. Si il l'a par exemple élevé, ensuite il l'a pris comme son fils, ensuite étant grand, il n'a plus de solution que de faire comme a fait ici cette femme. Mais il a dit, mais le tabni n'existe plus maintenant en islam. Auparavant c'était permis, on lui donnait notre nom. Maintenant c'est interdit. Il a dit, on ne lui donne plus notre nom. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si vraiment on pouvait vivre ce cas, on aurait fait. Mais il a dit, ce cas n'existe plus maintenant en islam. Donc l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin Rahmo est pris de quoi? Du premier avis qui dit c'est abrogé. Ensuite, il y a l'autre avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Albani et beaucoup d'autres aussi qui disent que ceci est valable et reste valable jusqu'à la fin du monde. Ils disent que chaque femme, chaque famille avec laquelle un homme doit vivre et il n'y a pas d'autre solution. Ils n'ont pas les moyens pour que l'homme aille acheter un appartement ou un studio. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et il doit rentrer matin et soir dans la maison. Comment qu'on va faire? Et le mari de la femme est toujours absent. Il part le matin, il revient la nuit. Et son beau-frère, je ne sais pas qui, doit rentrer. Comment qu'on va faire? Naam, ils ont dit ici, elle lui donne à boire le lait dans un verre. Naam, et il deviendra bi'idn azzawajal son fils de lait, mais à condition qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment dans l'obligation. Vraiment, vraiment dans l'obligation. C'est-à-dire, il ne reste de solution que cette solution. Autre chose, en ce qui concerne l'allaitement de quelqu'un qui est âgé. Naam. Le Cheikh Al-Rahmou dit, le Cheikh Al-Rahmou dit, est-ce que le fait que l'époux, quand il est en train de jouer avec sa femme, et par exemple, il va quoi? Il va téter sa poitrine. Et il va boire, par exemple, quelques gouttes de lait vont rentrer dans sa bouche. Et il va les avaler. Est-ce que, en faisant cela, elle devient sa mère et par conséquent, ils doivent alors se séparer ou bien elle est toujours sa femme et on ne prend pas en considération le fait qu'il ait tété sa poitrine. Muslim écrit numéro 1 si vous êtes là. Et le Cheikh a dit, surtout, Naam, surtout que de nos jours, il a dit, les choses ont beaucoup changé. Et que les gens, les hommes, quand ils jouent avec leurs femmes, ce n'était plus comme auparavant. Naam, une façon simple de faire les choses. Et maintenant, il dit, ils vivent dans le luxe et la somptuosité. Et ils ont l'aisance de la vie. Et moi, j'ajoute une chose, et ils imitent beaucoup les koufars. Ils voient à la télévision comment font les koufars, et il fait la même chose avec sa femme. Naam. Au point où on m'envoie des lettres où c'est écrit des choses horribles. Naam. C'est écrit des choses horribles dans la lettre, ce que demande l'homme à sa femme. Des choses que je ne saurais et ne pourrais citer, comme ça dans ce dars. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Revenons à notre cas. Il a tété, hein, en jouant avec sa femme, il a tété sa poitrine et maintenant il a bu quelques gouttes de lait. Est-ce que elle devient sa mère ou elle reste toujours sa femme? Ici, d'après certains ulamas, c'est devenu sa mère. Et ils doivent se séparer. Naam. Mais Cheikh Allah yarhamo a choisi un autre avis, choisi le deuxième. Et cet avis, je l'ai lu aussi. Chez Olamama, j'ai lu aussi cet avis qui disent que même s'il vient de sa femme et qu'il y a des gouttes de lait qui rentrent dans sa bouche et les avale, elle reste toujours sa femme. Elle reste toujours sa femme, Naam, car il n'a pas fait cela. Évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui fait cela avec intention, qui dit je vais téter la poitrine de ma femme pour me séparer d'elle. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a donné aussi un autre argument. Il a dit, d'ailleurs, si ça faisait aussi, alors la femme qui est intelligente et qui ne veut plus de son mari, alors elle va mettre un peu de lait dans le manger ou je ne sais pas où, dans son café. Elle va le faire pendant 5 fois sans lui dire que quoi, que c'est son lait. Et le 5e jour, quand il va boire, elle va lui dire Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. C'est terminé entre nous. 5 fois, je t'ai donné mon lait, tu ne savais pas. Donc, tu es devenu mon fils. Viens, mon fils. Embrasse-moi sur les joues. Assalamu alaikum. Tu es mon fils. Naam. Je vais t'acheter des bonbons. Naam. Tu ne vas plus faire autre chose. Je vais t'acheter des bonbons. Bidnillah ta'ala. Alors là, ce serait vraiment malheureux. Hein. Ce serait vraiment malheureux si cette chose se faisait. Alhamdulillah que ça ne se fait pas. Alhamdulillah que ça ne se fait pas. Car les femmes, étant très rusées, elles sauteraient alors sur l'occasion. Elles diraient, puisque ça se fait aller, Alhamdulillah, je vais me débarrasser de lui d'ici 5 jours. Alhamdulillah que vous ne pouvez pas faire cette chose et vous resterez les femmes de vos maris, bi'idnillah ta'ala. Naam. Tayyib. Il a dit ici, illa ummu ukhtihi wa ukhtu ibnatihi. Illa ummu ukhtihi wa ukhtu ibnihi. Il a dit sauf. Naam. Sauf la mère de sa sœur de lait. La mère de sa sœur de lait. فإن أخته من رضع لا تحرم عليه. Sa sœur, naam, de sa mère de lait, لا تحرم عليه, ne devient pas interdite pour lui. Naam, alors que dans l'affiliation, elle devient interdite pour lui. Je donne un exemple. Un homme, naam, la mère de la sœur de lait, naam, un homme, فأم أخته من رضع. La mère de sa sœur de lait. La mère de sa sœur. Taïb, moi par exemple, pour que vous compreniez, je me prends moi comme exemple, c'est plus simple. Naam. Moi par exemple, la mère de ma sœur. Naam. La mère de ma sœur, de ma vraie sœur, c'est qui? C'est ma mère. Elle dit, je ne peux pas me marier avec elle, c'est ma sœur. C'est ma mère, pardon. Mais la mère de ma sœur de lait. Mais maintenant, j'ai une sœur de lait. Par exemple, il y a une fille qui a tété la poitrine de qui? De ma mère. Donc celle-là, c'est qui? C'est ma sœur de lait. C'est ma sœur de lait. Ou bien, moi, j'ai tété la poitrine d'une femme qui a une fille. Cette fille, c'est qui? La fille de cette mère. C'est ma sœur de lait. La mère de la sœur de lait, la mère de la sœur de lait n'est pas comme la vraie mère. Naam, illa ummu ukhti. La mère de la sœur de lait n'est pas comme la vraie mère. Naam. Je donne un exemple. Il y a une femme qui a une fille. Il y a une femme qui a une fille. Cette fille a tété la poitrine de ma mère. Cette fille a tété la poitrine de ma mère. Cette fille, c'est qui? C'est ma sœur. Naam. C'est ma sœur. Pourquoi? Elle a tété la poitrine de ma mère. Et c'est en même temps la sœur de tous mes frères. C'est la sœur de tous mes frères. Mais sa mère à elle, sa mère, est-ce que pour moi, je peux me marier avec elle? Réponds-moi, Ismaël et Muslim, répondez-moi. Je vous répète le cas. Une femme a une fille. La fille a tété ma mère, a pris le lait de la poitrine de ma mère, comme moi j'ai pris le lait de ma mère. Donc, c'est ma sœur de lait. C'est ma sœur de lait. Mais moi, je peux me marier avec sa mère ou je ne peux pas? Ismaël, tu écris je peux ou je ne peux pas? Naam, oui, bien sûr, je peux, naam. Pourquoi? Parce que c'est la mère de ma sœur de lait. Ce n'est pas ma vraie mère. C'est la mère de qui? De ma sœur de lait. Naam. Et ce qui est très, 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 très malheureux, c'est que beaucoup de gens, naam, ils se trompent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'allaitement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se trompent dans l'allaitement. Subhanallah al-Azim. Ils disent, par exemple, que si moi, par exemple, dans ce cas où une fille, a quoi? A pris le lait de ma mère. Il croit quoi? Il croit alors que je ne peux pas me marier ni avec sa mère, ni avec ses sœurs à elle. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? On leur explique, on leur dit, ici, qui est-ce qui a tété? Qui est-ce qui a tété? C'est elle. Elle a tété qui? Elle a tété ma mère. Donc, puisqu'elle a tété ma mère, c'est une sœur pour moi. Elle est ma sœur de lait. Elle a tété ma mère. Mais ses sœurs à elle, les autres sœurs, qui n'ont pas tété ma mère, ce sont des étrangères. Naam, elles n'ont pas bu le lait de ma mère. Qui a bu le lait de ma mère? Celui qui a bu le lait de ma mère, c'est celle-là. Supposons qu'elle s'appelle Rachida. C'est Rachida qui a tété, qui a bu le lait de ma mère. C'est Rachida qui est ma sœur. Les sœurs de Rachida ne sont pas mes sœurs. Ce sont des étrangères. La mère de Rachida, c'est une étrangère. Sa cousine, toutes celles-là sont des étrangères pour moi. Naam. Maintenant, c'est quoi? C'est Rachida qui a pris mère. Maintenant, le contraire. Si moi, je vais boire le lait de la mère de Rachida, alors Rachida sera ma sœur et toutes les sœurs de Rachida seront mes sœurs. Et il n'est pas possible que je me marie avec les sœurs de Rachida, ni avec sa tante, naam, ni avec sa mère. Naam, mais je me marie avec sa cousine, bien sûr. Et dans ce cas, mes frères, moi, peuvent se marier avec qui? Avec Rachida et les autres. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai bu le lait de la mère de Rachida. Et mes frères, Rachida pour elle, pour mes frères, c'est une étrangère. Ils ne la connaissent pas. Naam, c'est moi seulement qui ai bu le lait de la mère de Rachida. Donc la mère de Rachida m'est interdite pour moi et Rachida m'est interdite. Et ainsi que ses tantes, etc. Mais mes frères, ce sont des étrangers pour Rachida. Elle doit se dévoiler devant mes frères. Ce sont des étrangers. El-Mohim. Il y a beaucoup de choses dans l'allaitement que les gens ne connaissent pas et font confusion. Naam, font confusion. Subhanallah al-Azim. Ça donne une khalota et ils ne savent pas quel est le plus juste à suivre. El-Mohim. Il a dit, فَإِذَا رَضَعَتْ أُخْتُكَ مِنْ إِمْرَأَةٍ فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهَا. Si ma sœur, ma vraie sœur, ma sœur, a pris le lait ou a bu le lait d'une femme. Alors là, je pose la question à Ismaël et l'autre. Ma sœur, ma vraie sœur, a tété le lait d'une femme, de ma voisine, de la voisine. Naam. Est-ce que moi qui suis son frère, peux me marier avec cette femme? Naam, répondez-moi. Est-ce que moi, qui suis le frère de ma sœur. Je peux me marier avec la voisine? Naam, je peux. Je peux, pourquoi? Parce que je n'ai pas bu le lait de cette femme. C'est ma sœur qui a bu le lait. Ma sœur n'a rien à voir avec moi. Naam, c'est elle, c'est ma sœur qui devient sa fille. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas son enfant. Je n'ai rien bu. Naam. Ensuite, il va rentrer dans autre chose. Je préfère arrêter là. Il va rentrer, c'est le plus important, bien sûr. C'est le plus important. Il va rentrer dans quoi? Il va rentrer dans celles qui deviennent interdites par l'acte de mariage. Naam. Celles qui deviennent interdites par l'acte de mariage. Et c'est peut-être le plus important. Naam. Et c'est peut-être le plus important. Seulement, naam. طيب جو بريفير لي سي سولا ان شاء الله تعالى او بروشان درس باذن الله تعالى نعم سونز اريتي ان شاء الله تعالى اون باس ديريكتومون او كيسيون دونك كومونس بار بنت حسين تفضلي بارك الله فيك او بيان اون سكوند نعم بنت حسين تفضلي لو طون كو جو ريفيان ان شاء الله تعالى دون اون مينوت او موا ان شاء الله تعالى ان شاء الله بوز لا كيسيون بنت حسين جيت اونفي البوان روج تفضل إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. Si une femme fait boire son lait à sa future coépouse et que cette dernière n'est pas au courant et boit le lait à plusieurs reprises avant le mariage, entre parenthèses, dans le but que son mari n'épouse pas cette femme en particulier, le mariage est-il valide et que risque cette femme pour cet acte? Faut-il des témoins pour l'allaitement?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واسمك tu peux إن شاء الله تعالى relire la question.
نعم. Est-ce que vous entendez bien إن شاء الله؟ السلام عليكم. Si une femme fait boire son lait à sa future coépouse et que cette dernière n'est pas au courant et boit le lait à plusieurs reprises avant le mariage, entre parenthèses, dans le but que son mari n'épouse pas cette femme en particulier, le mariage est-il valide? Et que risque cette femme pour cet acte? Faut-il des témoins pour l'allaitement?
Vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non. En ce qui concerne la première question, elle ne devient pas, non, elle ne devient pas une interdite au mari. C'est-à-dire le mari, même après qu'elle ait pris ce lait, devient toujours quoi? Devient toujours halal pour elle. Et peut se marier avec elle. Pourquoi? Je ne sais pas si vous étiez avec moi dans le dars. Il y a seulement 10 minutes ou 15. Je disais que il n'était pas permis d'allaiter quelqu'un qui a dépassé les 2 années. Sauf dans un cas où on doit faire rentrer quelqu'un à la maison et il n'a pas de moyens ou coucher, ou etc., ou vivre, et depuis yani, sa jeunesse, il vivait avec nous. Et encore ce cas, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou dit que ce n'est pas valable. Et encore ce cas, il dit que ce n'est pas valable. Alors qu'en est-il celle-là? Elle veut comme ça, juste pour faire quelque chose qui ne se fait pas encore, qui ne se fait pas, c'est-à-dire empêcher son mari de se remarier. Non. Elle veut quoi? Elle veut utiliser une méthode qui n'est pas permise. Donc dans ce cas, son mari, cette femme peut toujours se marier avec cet homme et naam, ce qu'a fait l'autre naam, ce qu'a fait l'autre ne se fait pas et elle risque d'avoir des péchés pour avoir yani, abusé. Ça s'appelle un abus de confiance pour avoir abusé de l'autre et lui avoir fait boire ou bien manger quelque chose que si elle savait, elle n'aurait pas mangé. Naam, imagine, si elle savait l'autre, est-ce qu'elle aurait bu ce lait? Sûrement pas. Alors pourquoi tu n'aimes pas pour autrui ce que tu aimes pour toi? Pourquoi tu ne détestes pas pour autrui ce que tu détestes pour toi? Quant à la deuxième question, les témoins ne sont pas obligatoires quand on allaite. Et si c'était obligatoire, alors beaucoup de problèmes n'auraient pas eu lieu aujourd'hui. Naam, justement c'est parce que ce n'est pas obligatoire qu'il y a ces problèmes, bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Abou wa tafaddalou. Abou wa Abdurrahman.
Assalamu alaykoum, cheikh. Puis-je poser une question qui n'est pas en rapport avec le sujet? Cheikh, est-ce que vous entendez, Inch'Allah? Yani, est-ce que ce soir c'est juste sur le sujet ou bien c'est question libre? Ils n'ont pas de réponse, Masha'Allah. Atfadal, Cheikh, yani, c'est comme vous voulez, Inch'Allah. Atfadal, Cheikh.
Wallahi, wallahi, de préférence, non. Pourquoi? Parce que j'ai dit que si quelqu'un posait une question hors sujet, alors pourquoi pas tout le monde? Alors dans ce cas, tout le monde va poser aussi une question. Pourquoi spécialement on va me dire celui-là il pose et nous non? Naam. C'est pour ça que, naam, j'aurais préféré que quelqu'un, inshallah ta'ala, non, non, Abu Oum Abdurrahman, inshallah ta'ala, puisque tu as fait toute ce qu'on appelle cette chaîne, etc. On ne va pas te laisser revenir bredouille. Tfadl, inshallah ta'ala, pose ta question. Tfadl, inshallah ta'ala, pose ta question. Là, 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 tfadl. Tfadl, Abu Abdurrahman, tfadl. Pose la question, inshallah. C'est une particularité aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un se trompe le premier, on l'excuse. Hey, tfadl. Pourvu qu'il ne prenne pas ça comme règle.
Naam, yani c'est une exception. Donc s'il y a des personnes qui lèvent la main et qui ont une question hors sujet, barakallahu fikoum de baisser la main et laisser ceux qui ont des questions sur le sujet de préférence. Barakallahu fikoum. Yani Ibn al-Qayyim, est-ce que tu as reçu la question? Abu Waoum, envoie-la-moi inchallah en PV, parce que je ne sais pas si le frère Ibn al-Qayyim il est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je voudrais vous soumettre une question, Inch'Allah, concernant un frère qui refuse d'accepter l'invitation à un repas chez un autre frère pour manger et parler d'Allah après la prière de l'Aïcha. J'aimerais savoir si cela est correct. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En principe, naam, vous savez que l'islam ne tolère pas le fait de parler, surtout parler beaucoup, naam, après quoi, après salat al-Isha. Car en général, on rate quoi? Ça va être une cause pour rater salat al-Fajr. Ça va être une cause pour rater salat al-Fajr. Mais les ulama ont dit, sauf si quoi? Naam. Sauf si, par exemple, c'est dans le dîn, etc. C'est dans le dîn, etc. Naam. Mais moi, je voudrais dire, naam, à tout le monde, inshallah ta'ala, que quand quelqu'un, naam, ne veut pas aller à une invitation, il peut, inshallah ta'ala, il y a des preuves des salafs, de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, qui se trouvent dans Fethel Bari, il y a des preuves où il est dit que tu peux t'excuser auparavant. Naam. Tu peux, par exemple, de nos jours, c'est très facile, et téléphoner et de dire, par exemple, je m'excuse, mais par exemple, aujourd'hui ou là, demain ou là, je ne peux pas venir et je serai absent, inshallah ta'ala, pour telle et telle cause, et ici, de sa cause. Ici, comme dans ce cas où on invite et qu'il est invité pour des choses où on parle d'Allah et de son prophète ou la d'Arsullah, naam. En principe, inshallah ta'ala, on ne refuse pas une chose pareille, sauf si on a mieux que cela à faire. Sauf si on a mieux que cela à faire, naam. Ou bien sauf si on est vraiment fatigué. Ou bien sauf, yani, si, comme je dis, on a des excuses. Mais en principe, yani, être invité à yani, assister où il y a un dars, où on parle d'Allah, où on explique quelque chose, et on sait qu'on va tirer quoi? On va tirer des intérêts. On sait que on va tirer des intérêts, en principe, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la généralité du hadith qui dit que yani, quiconque, et quand on l'invite à une invitation, il doit y répondre. Naam. Sauf, comme je dis tout à l'heure, si quelqu'un sait que s'il veille, il ne peut pas se réveiller à Salat al-Fajr. Salat al-Fajr est obligatoire, alors que veiller pour parler dans le dîn n'est pas obligatoire. Dans ce cas, s'il sait qu'il ne peut pas se réveiller, il tarde beaucoup, il a des excuses. Il dit, je ne peux pas venir, vous tardez beaucoup, et yani, j'ai peur de ne pas me réveiller Salat al-Subh. Mais sinon, en général, puisque ça parle d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du dîn, etc., yani, il serait mieux pour rassembler les corps, d'y aller, inshallah ta'ala. Ça fera plaisir à celui qui nous a invités. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب مسلمين تفضلي، مفيش مشكل أبو عبد الرحمن.
مسلمين est-ce que vous êtes là إن شاء الله؟ مسلمين sinon on passe à Oum Issa إن شاء الله. préparez vos questions à l'avance. بارك الله فيكم. Non, pour ne pas perdre de temps, barakallahu fikoum.
Pour ne pas perdre de temps, Oumaï, ça t'a fait d'aller.
Salam alaykoum. J'ai allaité mes nièces trois fois selon le troisième avis. Je ne connaissais pas les autres avis. Je suis maintenant convaincu par le deuxième. Dois-je les considérer comme mes enfants de lait? Et quel est l'avis du Cheikh Al-Albani? Rahmanallah. Barakallahu fikoum.
Attendez, je n'ai pas bien compris la question. J'ai allaité mes nièces trois fois selon le troisième avis. Je ne connaissais pas les autres avis. Je suis maintenant convaincu pour le deuxième. Dois-je les considérer comme un enfant? Tayyib. Premièrement, il y a deux questions ici. Oum Issa, écrit numéro 1, si tu es là. Très important, Inch'Allah, tu es là, bien sûr. Naam, Alhamdoulilah. Tayyib, j'ai allaité mes nièces selon le troisième avis. Le troisième avis, tu veux dire, tu m'écris numéro 1 si c'est ça. Tu veux dire qui dit que 3 TT suffisent. Cet avis, tu veux dire 3 au lieu de 5. Est-ce que c'est ça? Alors, explique-moi, j'ai pas compris. Naam, j'attends, Inch'Allah ta'ala, que tu m'expliques. Ah. Naam, naam, repas. Ça. Naam. Tayyib. Oum Issa. Cheikh Ben Outaymin, Allah yarhamou, a dit que, ça, la langue tt, etc. Mais il a dit 5 fois. Il n'a pas dit 3 fois. Toi, c'est pas l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen dit jusqu'à ce qu'il soit rassasié 5 fois. Toi, d'où tu as tiré le 3 fois? Il n'y a pas 3 fois dans l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a dit 5 fois. Naam. Mais pour chaque tété. Pour chaque tété, l'enfant a lâché repris. Naam, naam. Je veux dire que, Oum Issa, je veux dire que l'enfant est ton enfant. L'enfant est devenu ton enfant d'après l'autre cas, d'après l'autre avis, pas d'après l'avis de Ibn Uthaymeen, car l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen dit qu'il faut qu'il y ait 5 assises. Il faut qu'il y ait 5 assises. Il s'assoit, maintenant il boit, il tète jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite, dans 1 heure ou là, l'après-midi ou là, on lui donne la même chose jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a dit comme ça 5 fois. Et toi, tu as fait comme ça 3 fois, tu n'as pas fait 5 fois. C'est du moins ce que j'ai compris. Wallahu a'lam. Mais elle veut dire quoi? Expliquez-moi. Naam, moi je veux lui. Naam, c'est ce que je veux lui dire. Je veux lui dire que d'après. Naam, d'après les autres, ça donne 5. D'après les autres, ça donne 5. Naam, c'est ce que je veux lui dire. Mais ce n'est pas d'après Cheikh Ibn Uthaymeen. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen, il faut 5 fois. Il faut 5 fois, l'enfant est rassasié. Est-ce que maintenant ta question, ou mais ça, ta question, tu veux dire que maintenant d'après l'autre, d'après les autres avis, si c'est ça la question, d'accord. Car tu ne l'as pas appliqué, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, tu ne l'as pas appliqué. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen dit 5 fois. 5 assises. Naam, c'est la première question. Donc la première question, on est d'accord, inshallah ta'ala. On va passer à la deuxième question pour que je te réponde. Est-ce que toi, quand tu as fait ça, tu as lu quelque chose ou tu l'as fait comme ça de ta tête? Naam, quand tu as fait ça, tu t'es basé sur quoi? Tu t'es basé sur quoi? Où tu as lu ça? Naam, on m'a dit, Tayyib, celui qui t'a dit, c'est un alim ou là, c'est la voisine. Qu'est-ce qui t'a dit? Un alim, c'est un alim qui t'a dit, ou là c'est n'importe qui t'a dit, la masse, qu'il fallait que pour chaque tétée, l'enfant, il faut qu'il soit rassasié. D'accord, on est d'accord avec ce que tu as dit. D'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, on est d'accord. Mais il faut 5 fois d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, il faut 5 fois. Oum Issa, je vais te poser la question pour qu'on soit bien clair, inshallah ta'ala. Il faut que tu comprennes ce que je veux dire d'abord. Ensuite, on peut continuer. Oum Issa présente, alhamdoulillah. Regarde ce que je veux dire, c'est tout. C'est quelque chose de très simple. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, dit que, dit que, il faut qu'il fasse, qu'il soit rassasié 5 fois. 5 assises. Dans chaque assise, il tète jusqu'à être rassasié. Toi, Inch'Allah Ta'ala, tu l'as rassasié, Mash'Allah, mais 3 fois. Dans 3 assises. Et à chaque fois, Mash'Allah, il prenait la poitrine et la lâchait, il la prenait, la lâchait, il faisait comme ça, jusqu'à ce qu'il rassasié. Naam. Donc, toi, naam, tu n'as pas, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu n'as pas appliqué? Tu n'as pas appliqué ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Tu es d'accord, écris-moi d'accord. Oui, car je ne voulais pas qu'elle soit mon enfant de lait. Naam. Naam, naam, je comprends. Je comprends maintenant. Je ne voulais pas qu'elle soit mon enfant de lait. Allah l'adhim. Donc, elle dit, on l'a forcé. Naam. Donc, toi, Oum Issa, voilà ce que je veux maintenant. Toi, dans ton cœur, tu te disais que, il serait mon enfant de lait si, naam, tu étais convaincu de cette chose. Tu t'es dit, il serait mon enfant de lait si je vais lui donner à boire 5 fois jusqu'à ce qu'il se rassasie. Est-ce que tu as dit comme ça dans ton cœur? Et c'est pour ça, je lui donne seulement 3 fois pour qu'il ne soit pas. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, voilà la dernière question que je vais te poser. Donc, tu étais convaincu. Avec l'avis qui dit que il ne sera mon enfant que si je le rassasie 5 fois. 5 fois avec des assises différentes, 5 repas. Tu es d'accord comme ça? Alhamdulillah. Je pose beaucoup de questions. J'imite Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Je ne suis rien devant lui, mais je l'aime beaucoup. Il posait beaucoup de questions avant de répondre. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas ton enfant. Naam. Car tu t'es basé sur une chose comme quoi il est mon enfant s'il boit 5 fois d'après Cheikh Ibn Uthaymeen. Et alors il n'a pas bu 5 fois, donc il n'a pas rempli les conditions bi'idhnillahi azza wa jal. Et Inch'Allah ta'ala Oum Issa, pour que tu sois plus sûr, ça c'est mon avis, pour que tu sois plus sûr Inch'Allah ta'ala, dans le dars d'après-demain, si je n'oublie pas, non c'est pas après-demain, non, dans le prochain dars comme aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, je te confirme par des gens qui connaissent mieux que moi, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Oum Abdillah, tafadhali, hayyakallah. Naam. Je ne connais pas l'avis du Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Je ne connais pas son avis, bi'idhnillahi azza wa jal. Il me semble que il prend l'avis de la plupart des ulama qui disent que quoi? Qui disent que ce n'est pas jusqu'à ce qu'il se rassasie. Car Cheikh Al-Albani est connu, qu'il suit beaucoup, Cheikh Ibn Taymiyyah, Allah yarhamou. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Muslimina, pourquoi elle n'a rien écrit? Muslimina, pourquoi elle n'a pas posé sa question? Al-Muhim, on l'attend un peu, sinon, Inch'Allah ta'ala, on fait monter un autre. Tayyib. Oum Abdillah, tafadhali, je t'enlève le rouge. Je vais écrire la question de la ourte. Naam. La question de la ourte.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir quels peuvent être les signes suite à la salat istikhara faite dans le but de confirmer le choix de son futur époux, Inch'Allah. Est-ce que le fait qu'une sœur vienne nous rappeler à plusieurs reprises certaines choses très importantes sur le choix du futur époux et qui provoque en nous certains doutes peut être un signe négatif, car si on est vraiment déterminé à vouloir se marier avec le frère en question, on a tendance à n'en faire qu'à sa tête et zapper le reste. Jazakumullahu khairan.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واسمك ابن القيم. Tu es là, écrit numéro 1. الحمد لله. Où est le rapport avec le dars, ابن القيم? Où est le rapport avec le dars? طيب. Mais puisque tu as lu, on va pas... Non. Non, mais c'est toi qui as lu. Un musulman qui a lu. Hein? Maalesh, je veux dire à ces personnes qui font la salat istikhara, que quoi? Que l'essentiel dans Salat Istikhara, c'est que Allah Ta'ala facilite ou bien qu'il rende les choses difficiles, c'est tout. Naam, l'essentiel, quand je fais Salat Istikhara, je me base sur les choses, comment qu'elles se déroulent. Est-ce qu'elles vont vite et que, alhamdoulilah, ça commence à marcher? Ou bien que, voilà, on découvre que le prétendant a menti, ou bien la femme a menti dans quelque chose, ou bien elle a caché quelque chose, ou bien ceci, ou bien cela, naam, et on voit ou là on entend, qaddar Allah, la qaddar Allah, que voilà, yani, il a vite demandé la main d'une autre, il a ceci, mon père n'accepte plus, mon père, tout d'un coup il est contre, et comme ça, naam, c'est ça, sur la chose sur laquelle on doit se baser quand on fait salat istikhara. Il ne faut pas beaucoup, se baser sur on a entendu une personne dire ceci ou j'ai vu dans le songe telle chose. Je vous rappelle très vite, une chose que je vous ai dite. C'est sûrement, pardon, c'est seulement pour vous rappeler. C'est seulement pour vous rappeler bi'idhnillahi ta'ala et vous confirmer ce que je suis en train de dire. Une fois, je voulais acheter une voiture et j'ai fait l'istikhara. Et le jour où je l'ai prise pour l'essayer, il y avait quelqu'un avec moi qui montait avec moi pour l'essayer. Pour que je n'en sais jamais que je change le moteur ou là je vole quelque chose de la voiture. Le mohim, en essayant, on a marché peut-être, je ne sais pas, 500 mètres ou là, elle est tombée en panne. Et vraiment, il y a une... Elle a chauffé, l'eau qui coule, l'eau qui sort je ne sais pas, de la boîte, etc. Donc, pour beaucoup, et même pour moi, j'ai dit peut-être que c'est un signe de l'istikhara, ça. Comment j'ai fait l'istikhara et je monte dans la voiture, seulement 500 mètres, elle fait un problème pareil. D'ailleurs, même le bonhomme m'a dit, subhanallah al-adim, il y avait un ami aussi avec moi, il m'a dit, si ce n'est pas cela, si ce n'est pas ça, le signe de l'istikhara, alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'istikhara. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, subhanallah, si maintenant ça, ce n'est pas un signe qu'il ne faut pas l'acheter, alors je ne vois pas où est le signe. Et malgré cela, je l'ai acheté. Et elle a été pour moi l'une des meilleures voitures. Subhanallah. Pourquoi? Parce que, en sentant bien sûr dans mon cœur quelque chose qui m'a pincé parce que j'ai vu ce problème, mais vite, yani, c'est parti de mon cœur. Vite, ce pincement est parti de mon cœur et j'ai toujours penché vers elle. En allant à la maison, je pensais à elle, partout je pensais à elle et j'ai fini par l'acheter. J'ai dit, puisqu'il y a dans les démarches, tout marche. Dans les démarches, il n'y a aucune entrave qui est parvenue. Tout ça a marché normalement et vite. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, Inch'Allah Ta'ala, base-toi sur est-ce que les choses marchent vite ou là est-ce que les problèmes commencent à surgir. Et ne te base pas sur ce que tu as vu dans le rêve ou sur les choses qu'on entend des gens. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Ummu Ubaidillah, tafadhali.
Naam, Cheikh Afwan, pour la question, yani, j'avais vu que c'était en rapport avec Zawaj, donc c'est pour ça que je l'ai lu, Afwan. Donc c'est juste sur le sujet d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'oncle maternel et le grand-père maternel Sont-ils des muharams? Et si oui, la femme peut-elle se dévoiler devant eux? De même pour les oncles de mon mari. Jazakallahu khayran.
Wa alaykoum salam. Tayyib, laissons en général donc les questions dans ce qui a rapport avec le mariage. Non, laissons en général, yani comme ça, pour que les gens yani, ne soient pas, non, ne trouvent pas, disons, d'embarras. Tayyib. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que donc, le maternel et le grand-père maternel sont-ils des mahrams? Si oui, la femme peut-elle se dévoiler devant eux? Demain pour les ongles de mon mari, jazakallahu khair. Naam. Il faut que je sache qu'est-ce que ça veut dire, l'oncle maternel, etc. Naam. Si je ne sais pas, moi je peux penser à un homme, je me dis, c'est celui-là l'oncle paternel. Alors que ce n'est pas lui. Donc la sœur, ou celui qui a posé la question, doit me dire, c'est le frère de X, le frère de mon mari, ben le frère ou la de je ne sais pas qui, pour que je comprenne. Parce que chez vous et chez moi, il y a un problème. Vous dites la belle-sœur, pour moi la belle-sœur c'est une autre femme. Vous dites le beau-père, pour moi le beau-père c'est une autre personne. Tfadli, Inch'Allah, Oumar Oubaydillah, c'est qui sont ces gens? On commence par le premier. C'est qui celui-là? Le grand-père, l'oncle paternel. C'est qui, Hada? Ou l'oncle maternel, pardon. Le frère à ma mère et le père à ma mère. Subhanallah l'azim. Oumar Abdillah. Le frère à ta mère, subhanallah al-azim, c'est ton oncle. Naam, c'est Khalek. Oum Abdillah, écrit numéro 1 si c'est vrai ce que je dis. Naam, c'est Khalek. Et alors, Khalek, est-ce qu'il est possible qu'il se marie avec toi? C'est impossible. C'est impossible. Et le père à ma mère, c'est ton grand-père. Il ne peut jamais se marier avec toi. Donc ces deux personnes, tu te dévoiles devant eux et ce sont des mahrams. Naam. Passons à la troisième personne, Inch'Allah Ta'ala, c'est qui? Naam, c'est tout, Inch'Allah Ta'ala? C'est tout? Tayyib, si c'est terminé, Inch'Allah Ta'ala, le frère de la mère de mon mari. Le frère de qui? De la mère de mon mari. Non, non, celui-là, c'est un étranger. Naam, le frère de la mère de mon mari. C'est un étranger. Comme le frère de ton mari. Le frère de ton mari, c'est un étranger. Et le frère de la mère du mari, c'est un étranger. La preuve, c'est qu'il peut se marier avec toi. Et le frère du père de mon mari. Naam, c'est un étranger pour toi. Le frère du père de ton mari, c'est un étranger. Il peut se marier avec toi. Donc, tu dois te voiler devant lui. Tu dois te voiler devant lui. Donc, les deux premiers, tu ne te voiles pas devant eux, les devant eux, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, est-ce que c'est terminé, Inch'Allah? On est à Nono 08. Naam. Fadal Nono 08. Comment dois-je me couvrir devant les deux premiers? Naam. Les deux premiers, tu leur montres, regarde la règle, Oum Ubaydillah. Les deux premiers, tu leur montres ce qui t'est permis de montrer dans les ablutions. Les deux premiers, tu leur montres ce qui t'est permis de leur montrer dans les ablutions. Quand tu fais les ablutions, tu passes l'eau où? Sur le visage, tu leur montres le visage. Sur les cheveux, tu montres les cheveux. Sur les bras jusqu'aux coudes, tu montres les bras. Sur les jusqu'aux chevilles, tu montres les pieds. Et en plus, tu peux montrer un peu ton cou. Un peu ton cou. Et un peu plus haut que les coudes. Et un peu plus haut que les chevilles. Tout cela, on peut les montrer à ces gens-là qui sont des mahrams. Bi'idhnillahi azza wa jal. Tayyib. Tfadl, cheikh.
Salamu alaykoum. Mon ex-mari s'est remarié. Sa femme est-elle considérée comme interdite au mariage pour mon fils, par exemple? Quels sont les dalils? Pourra-t-il la voir sans le hijab? Et est-ce dans la sunna de dire d'elle belle-mère? Yani, Cheikh Ibn Al-Qayyim, il a eu un problème. Il est tout en bas, il lève la main. Voilà, barakallahu fikoum.
طيب. Premièrement, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxièmement, tu as lu un peu la question de Nono. Ensuite, tu as fait rentrer la question de Ubaydillah. Quels sont les dalils? Ensuite, tu as terminé avec Nono. Saha, jazakallahu khair. Ensuite, ce qui est drôle, vraiment drôle, c'est que je ne fais pas la différence. Je ne fais pas la différence entre ta voix et celle de Ibn Qayyim. Naam. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux voix. Je ne sais pas les autres s'ils font la différence. C'est pour ça que si tu ne me dis pas que Ibn Qayyim n'est pas là ou là, je ne remarque pas. Naam, je ne remarque pas. Je reviens vite vers Umm Ubaydillah pour dire que. Naam. Je reviens vers Umm Ubaydillah qui dit quels sont les dalils? Naam. Les dalils de quoi, Umm Ubaydillah? Les dalils de quoi? Qu'on peut montrer ou là qu'on ne peut pas? Naam. Qu'on peut montrer ou qu'on ne peut pas? Allah yahdikoum. Vous êtes trop marrant, Allah yahdikoum. Ah, naam. Vous êtes là-bas en train de manger et de rire. Saha, saha. Tayyib, tfadl. Tayyib, Umm Ubaydillah, je lui ai donné un point rouge. C'est pour ça qu'elle ne peut pas dire. Je dis que, en ce qui concerne l'oncle et l'autre, le grand-père maternel, etc., qu'elle peut se dévoiler devant eux, c'est le verset. Naam. Elle revient au verset, au surat An-Nur, qui dit que la femme ne peut pas se dévoiler devant, et il a cité 8 catégories. Il a cité 8 catégories. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa ila kumusa cité 8. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو خواتهن أو نس... لويت لويكا. Dans ce cas, il a dit que elles ne doivent pas montrer quoi, montrer, se dévoiler, montrer leur parure qu'à ceux-là. Naam, qu'à ceux-là. Et dans un autre verset, il a cité d'autres où elles pouvaient aussi se montrer. Naam. Et la règle générale dit que chaque homme dans lequel ou avec lequel la femme ne peut pas se marier, elle peut lui montrer sa parure. Chaque homme avec lequel une femme ne peut pas se marier, elle peut lui montrer, se dévoiler devant lui, lui montrer sa parure. Sauf ce qu'on a cité tout à l'heure, si son père, il est son père de Zina. Sauf si son père est un père de Zina. Naam. C'est ça, Inch'Allah Ta'ala, les dalils bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et il y a une cassette spécialement de Sheikh Al-Albani qui montre quelles sont les personnes que la femme devant lesquelles elle peut se dévoiler et quelles sont les personnes devant lesquelles elle ne doit pas se dévoiler. Mais en général, on dit elle ne se dévoile pas devant X et X qui sont cités dans le Coran. Les 8, et on ajoute quoi? On ajoute la règle qui dit qu'elle peut se dévoiler devant toute personne avec laquelle elle n'a pas le droit de se marier. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tfadl al-Sheikh. Ibn Qayyim, hal anta mawjoud? Naam. Peux-tu relire, barakallahu fik? Peux-tu relire la question? Non, elle est écrite, juste il l'a relit.
Salamu alaykum. Mon ex-mari s'étant remarié, sa femme est-elle considérée comme interdite au mariage pour mon fils? Par exemple, pourrait-il la voir sans le hijab? Est-ce dans la sunna de dire d'elle que c'est sa belle-mère?
Non, non. Inch'Allah ta'ala, écrit numéro 1, je vais te poser des questions. Écrit numéro 1. Alhamdulillah. Non, non. Mon mari s'est remarié. Sah. Mon mari, attends, je vous lis ici. Je vous lis ici. Mon ex-mari s'est remarié. Sa femme était considérée comme interdite au mariage pour mon fils Tayyib. Sa femme est-elle interdite au mariage pour mon fils? Est-ce que ton fils, c'est son fils? Est-ce que ton fils, il a été issu de ce mari, de l'ex-mari? ou bien c'est ton fils d'un autre homme. J'attends ta réponse, inshallah ta'ala. Non, du père. Ah oui, c'est son père. Ah, c'est son père. Donc, si c'est son père, naam, si c'est son père, taïb, une seconde, pourra-t-il l'avoir sans hijab? Naam, si c'est son père, il peut l'avoir sans hijab. Car il ne peut jamais se marier avec la femme de son père. Un homme ne peut jamais se marier avec la femme de son père. Mon père, moi, mon vrai père, s'il se marie avec quatre femmes, naam, je ne peux jamais me marier avec l'une de ces femmes. Mais, je peux me marier avec une de ses filles. À condition que quoi? À condition que la femme avec laquelle mon père s'est marié a une fille d'un autre homme. Naam, celle-là, moi je peux me marier avec elle. Je vous donne un exemple très vite pour comprendre. Pour comprendre, mon père, qui m'a eu en s'accouplant avec ma mère, donc c'est mon vrai père, s'est marié avec une deuxième femme. Et la deuxième femme a une fille avec elle qui s'appelle Rachida. Moi, je peux me marier avec Rachida. Pourquoi? Parce que Rachida est venue d'un autre homme, pas de mon père. Mais la mère de Rachida, qui est la femme de mon père, je ne peux jamais l'épouser. Est-ce que tu as compris, Nono? Tu as compris? Alhamdoulilah. Les gens doivent se dire pourquoi celui-là il insiste sur Rachida Ali. C'est qui Rachida? Non, c'est un exemple là. Je ne connais ni Rachida ni rien. C'est un exemple. C'est plus simple de dire Rachida à tout le monde, connaît ce prénom, etc. J'espère que s'il y a des sœurs qui s'appellent Rachida, elles ne se sentent pas gênées, inshallah. Je parle en général. Et pour le terme de la belle-mère, est-ce dans la sunna? Pour le terme de la belle-mère, ce n'est pas dans la sunna, mais ce n'est pas interdit de le dire. Ce n'est pas interdit de le dire. Ça rentre dans les habitudes. Naam, il est possible qu'en France, vous disiez belle-mère, qu'en Algérie, on dise mère, qu'au Maroc, on dise grand-mère. Tout cela, ça rentre seulement dans les habitudes. Et ce n'est pas interdit de dire une chose, naam, pareil dans les gens, naam, des coutumes. C'est devenu une coutume, ce n'est pas interdit, même si ce n'est pas venu dans la sunna, incha'Allah ta'ala. Tayyib. Cheikh Smaïn, tafadlal. Fiki barakallah. Tafadlal, khod al-laqid. Est-ce que Ismaïl est là? S'il n'est pas là, incha'Allah ta'ala, on passe à l'autre. Ismaïl. Naam, j'ai oublié de lui enlever le point rouge. Hein? Naam, c'est de ma faute, incha'Allah ta'ala. J'ai oublié de lui enlever le point rouge. Ensuite, je n'oublierai pas de dire à Ammar Medine s'il est là, ou là, si c'est lui qui est derrière le pseudo, et que s'il a envie de dire quelque chose, ou là, d'ajouter quelque chose, ou là, de faire passer, comment qu'on appelle ça, une annonce, que yatafadzal, inshallah ta'ala. Fadzal Ismaïl.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh, kifa haluka, hayakallah, pour le dars. Inch'Allah, je voudrais citer un hadith suite à ce que tu as dit tantôt au sujet du dévoilement de la femme. Et je voudrais te poser, Inch'Allah, une question à propos de ce hadith parce que dans ce hadith, il est question d'un homme qui est non-voyant, à ce que j'ai compris, d'un homme qui était non-voyant et qui était en compagnie de plusieurs femmes qui n'étaient pas voilées. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cela, il a demandé à la femme pourquoi est-ce qu'elle n'était pas voilée. Donc les femmes, je crois, elles ont répondu que de toute façon, que l'homme aveugle, de toute façon, comme il ne la voyait pas, à ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a quand même répondu qu'elle devait se voiler. Cheikh, donc je voudrais savoir, le hadith que j'ai cité, est-ce qu'il existe? Et si ce hadith existe vraiment, est-il sahih? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Voilà, c'est ce que je voudrais bien savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ce hadith existe et il n'est pas vrai. Ce hadith existe et il n'est pas sahih. Naam. Mais par contre, il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Qais d'aller enlever ses vêtements chez un aveugle, car il ne la voit pas. Je dis que ce hadith est faible. Cheikh Al-Albani a dit ce hadith est faible, où c'est cité l'histoire que tu as racontée, et à la fin il leur dit Afa'am Yawan, ou quelque chose comme ça, Afa'am Yawan Antuma, et vous ne le voyez pas. Lorsque vous vous dites il ne nous voit pas, il a dit et vous ne voyez pas. Ce hadith est faible. Et ce qui renforce qu'il est faible, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à Fatima, de se dévoiler, et il lui a conseillé d'aller faire la viduité, période viduité, dans l'appartement d'un aveugle, car il ne la voit pas. Incha'Allah ta'ala. Donc le hadith est faible, celui que tu viens de citer, bi'idhnillah ta'ala. Grande étoile, tafadhali. Allah yajazik khair, Ismaël.
Grande étoile, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Tapez 1 si vous êtes là, car on n'a pas eu de question pour l'instant. Naam. Donc si vous avez mis la question, on n'a rien reçu. Yani, je répète, Inch'Allah, de préparer les questions avant. Envoyez-la moi en PV, barakallahu fikoum. Yani, faites un copier-coller et envoyez-la moi en PV. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum. Hayakallah, Cheikh. Mon fils a 2 mères de lait. Est-ce que moi, sa mère biologique, ai des obligations envers ces 2 mères de lait? Exemple, Ziyara ou Rahim, sachant que je ne vois plus l'une d'entre elles pour des raisons irrévocables. Mais mon fils a toujours des contacts avec ces 2 mères de lait, alhamdoulilah, car pour lui, je sais que c'est une obligation. Barakallahu fik wa salamu alaykoum. PS, mon fils est le frère de toutes les filles de ses mères de lait, si j'ai bien compris le dars.
Ibn al-Qayyim, répète ce que tu as dit. PS. PS quoi?
Mashallah, cher, vous arrivez toujours pas à faire la différence. C'était Muslim et pas Ibn al-Qayyim. PS, mon fils est le frère de toutes les filles de ses mères de lait, si j'ai bien compris le dars.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon, inshallah ta'ala, dans ce livre qu'on est en train de suivre, le Zawaj, les règles du mariage, Inch'Allah ta'ala, on apprendra beaucoup, beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Beaucoup, beaucoup de choses. Ça viendra surtout dans ce qui va venir, les prochains dars, et beaucoup de choses dans le divorce et le khul, et des milliers de choses. Al-Mu'im, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse la science qu'il nous apprend. La science qu'il nous apprend. Amin. Tayyib, Naam, porte la grande étoile, c'est lui qui a ses obligations. Naam, d'avoir, de ne pas rompre les liens avec ses mères, car il a le même droit envers elle qu'envers toi. Le mère, il a le même droit envers elle, ses mères, qu'envers toi, qui est aussi sa mère. Naam. Mais toi, tu n'as rien à voir avec elle. Toi, si par bon comportement, tu veux avoir des relations avec elle, naam, sinon, ce n'est pas une obligation pour toi. Naam, l'obligation, c'est pour lui. Bi'idhna azza wa jal. Pas pour toi. Incha'Allah ta'ala. Naam. Et avoir un bon comportement avec les gens en général, c'est quelque chose d'inscrit dans le Coran et la Sunna, comme tout le monde le sait. Naam, c'est quelque chose d'inscrit dans le Coran et la Sunna. Pour celui qui veut avoir des récompenses en plus, bi'idhnillah azza wa jal. Donc elle a dit PS, donc elle a dit, si j'ai bien compris le dars, mon fils est le frère de toutes les filles de mes mères, de ses mères de lait. Naam, si ton fils, inshallah ta'ala, a tété la poitrine de deux femmes, ces femmes, ces filles, les filles de ces femmes, sont toutes les sœurs de ton enfant, toi, et il ne peut jamais se marier avec ces filles-là, qui sont ses sœurs, ou avec les premières filles qu'elles ont eues. C'est les premières, et aussi les premières, qui ont bu le lait avant lui, elles sont maintenant grandes, etc. Celles-là aussi, ce sont ses sœurs. Je dis cela, et les dernières. Je dis cela, car certaines personnes croient, mal asif, elles croient que quelqu'un devient le frère de lait s'il boit seulement, il devient le frère de lait de la personne avec laquelle il a bu en même temps. Comme ça, certaines personnes disent, puisque j'ai bu le lait d'une femme et en même temps elle allaitait, par exemple, une sœur, donc c'est cette fille qui est ma sœur. Mais les grandes filles et les petites qui vont venir après ne sont pas mes sœurs. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Plus grave que cela, je vais vous dire une chose plus grave que cela. Plus grave que les gens ne connaissent pas. Mais ça viendra, inchallah, mais je vais vous la dire aujourd'hui. Regardez, comme moi, je donne toujours mon exemple pour que ça soit plus clair. Moi, je bois le lait de la poitrine d'une femme. De la poitrine d'une femme. Vous êtes d'accord avec moi, je viens de corriger maintenant, que toutes les filles de cette femme sont mes sœurs. Et que tous les fils de cette femme sont mes frères. À moi. Pas à mon frère ni à ma sœur. À moi. Taïb. Regardez maintenant. J'ajouterai une autre chose. C'est que cette femme dont je viens d'allaiter, si elle va se marier avec un autre homme, elle va se marier avec un autre homme et avoir des filles. Les filles qu'elles vont avoir, ce sont toujours mes sœurs, subhanallah. Les filles, elle va se marier avec un autre homme, subhanallah l'adhim. Et les filles qu'elle va avoir seront toujours mes sœurs. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles vont boire le même lait que moi, j'ai bu. Naam, elles vont boire le même lait que moi, j'ai bu. Attention, comme on fait la remarque maintenant, quand je vous dis moi, je bois le lait, etc. Imaginez, moi, j'ai 2 ans. J'ai 2 ans. Hein, quand je parle, je dis, je pleure, etc. J'ai 2 ans. Et je parle, c'est pas moi qui parle, il y a un jeune qui parle à ma place. Naam. Donc, il faut m'imaginer avoir combien? 2 ans. Et je tète la poitrine d'une femme. Toutes ces filles sont mes sœurs. Et mieux encore, quand elles se marient avec un autre homme, et un autre homme aussi, ces filles seront mes sœurs. Pourquoi? Parce que le même lait qu'elle m'a donné, elle a donné à ses filles aussi. Et mieux que cela, cette chose que je vais dire maintenant. Attends, j'ai pas terminé, grande étoile, attends, j'ai pas terminé. Maintenant, je vais vous dire aussi une autre chose, peut-être ça va vous étonner. Ça va vous étonner, mais pour que vous sachiez qu'on ne connaît rien de l'islam, c'est tout. Maintenant, moi j'ai 2 ans, j'ai moins de 2 ans. Et je vais téter la poitrine d'une femme. J'ai moins de 2 ans, je vais téter la poitrine d'une femme. Cette femme a quoi? A une fille. Là, vous êtes d'accord que la fille, c'est ma sœur. Et que si cette femme se marie, chaque fille qu'elle aura sera ma sœur. Mais attention, regardez le nouveau. Cette femme dont je viens de téter la poitrine, a un homme, peut-être qu'elle est mariée. C'est qui celui-là? C'est mon père de lait. Je viens de téter sa femme, ça? Ce père, si lui, il va se marier avec une autre femme, il va se marier avec une autre femme au bled, et il va avoir une fille. Sa fille, c'est aussi ma sœur de lait, subhanallah l'adhim. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Il va se marier avec une autre femme, et l'autre femme va allaiter sa fille. Et moi, je n'ai pas tété la poitrine de l'autre femme. Comment se fait-il qu'elle va être ma sœur? Car, regardez bien la réponse, car le lait que j'ai bu de la femme, de la première, hein, qui a été la cause du lait? C'est le père. Et lui-même va être la cause du lait de la deuxième. Ça s'appelle en arabe l'ibn al-fahl. Donc, c'est à cause que c'est mon père que toutes les filles vont être mes sœurs. Naam. Car beaucoup de gens ne savent pas. Ils disent le mohim, moi, j'ai allaité, c'est cette femme qui m'a allaité, c'est pas l'autre. L'autre, c'est une étrangère. On lui dit, attention, c'est le même père. C'est le même père qui a poussé le lait à sortir de la poitrine. Attention. Naam, alhamdoulilah, on passe à Om Talia 38. Tafadlali. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Tafadlali.
Salam alaikum. Une femme a divorcé devant un tribunal, entre parenthèses, non islamique, mais son mari ne veut pas quitter le domicile sous prétexte qu'ils ne sont pas divorcés devant un imam. Que peut-on conseiller à cette personne? Barakallahu fikoum shir, pour le temps que vous nous accordez. Jazakallahu khairan.
Je n'ai pas compris. Je pose la question à Talia 38. Naam. Est-ce que l'homme a divorcé dans son cœur ou il n'a pas divorcé? Est-ce que l'homme, on l'a forcé, on lui a dit vous êtes divorcé de votre femme? Naam, parce qu'elle a déposé plainte contre vous par exemple. Ou bien lui, dans son cœur, naam, il a divorcé. C'est-à-dire il a dit je divorce dans son cœur et il a signé les papiers, etc. Réponds-moi, Inch'Allah Ta'ala. Ah, donc il a été forcé. Ça? Mais il a signé des papiers. Naam, mais il a signé des papiers. Ça? Il a signé des papiers, mais lui, dans son, au tribunal, naam, mais lui, il ne voulait pas divorcer. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Talia 38, Inch'Allah Ta'ala. La réponse, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Comme aujourd'hui, nous serons, Inch'Allah Ta'ala, mercredi prochain. Non, ce n'est pas mercredi, pardon. Samedi prochain, Inch'Allah Ta'ala, dans le même dars. Naam. Inch'Allah Ta'ala, je te donnerai la réponse que je suis à la question que je suis en train d'écrire maintenant. Naam. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib. Inch'Allah Ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à Abu wa Asiatu.
Salam alaikum, cher. J'ai bien compris que la fille doit se voiler devant son père, s'il l'a eu dans Zina. Mais mon demi-frère, entre parenthèses, nous n'avons pas le même père. Il est né dans Zina, entre parenthèses, et il n'est pas musulman. Nous avons été élevés ensemble, notre mère l'a allaité. Dois-je me voiler devant pour votre attention?
Naam, Wasmak ibn al-Dar qui a lu, je ne sais pas si c'est Ibn Qayyim ou l'autre qui a lu, Al-Muhim. Celui qui a lu de vous, Alhamdulillah, c'est toi. Celui qui a lu, Inch'Allah Ta'ala, qu'il répète la question car j'étais en train d'écrire, je n'avais pas terminé. Tfadlal.
Salam alaikum, cher. J'ai bien compris que la fille doit se voiler devant son père, s'il l'a eu dans Zina. Mais mon demi-frère, entre parenthèses, nous n'avons pas le même père. Il est né dans Zina et il n'est pas musulman. Nous avons été élevés ensemble. Notre mère l'a allaité. Dois-je me voiler devant lui? Qu'Allah vous récompense pour votre attention.
Laissez-moi, Inch'Allah Ta'ala, bien méditer la question. Laissez-moi, Inch'Allah Ta'ala, bien méditer la question. Abu wa Asiatou. Présent, Inch'Allah. Vous êtes présent, Inch'Allah Ta'ala. Je ne voyais pas que vous étiez là. Alhamdulillah. Regarde, dis-moi, Inch'Allah Ta'ala, si c'est ce que j'ai compris. Hein. Dis-moi si c'est ça, ce que j'ai compris. J'ai un demi-frère qui est né dans la Zina. Mais ce demi-frère a été allaité par ma mère. Il a été allaité 5 fois ou plus, bien sûr, par ma mère. Est-ce que je me voile devant lui? C'est comme ça la question, elle est toute simple. J'ai un demi-frère né dans la Zina. Naam. Ce demi-frère a été allaité. Naam. Je dirais très simplement, naam. Le fait qu'il ait été allaité par ta mère, il devient ton demi-frère, qu'il soit par disons, il n'est pas musulman. Naam, il n'est pas musulman, ça n'a rien à voir. Naam, il n'est pas musulman, ça n'a rien à voir. L'essentiel, c'est quoi? C'est ton demi-frère. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, naam, ce qu'il faut savoir, c'est que, quoi? Est-ce qu'il a, il a bu, yani, dans les deux premières années et plus de cinq fois? Est-ce qu'il a bu dans les deux premières années et plus de cinq fois? Si c'est comme ça, tu as un demi-frère qui est kafir, c'est tout. Naam. Si c'est comme ça, tu as un demi-frère, naam. Celui-là, tu ne te voiles pas devant lui. Il a bu le lait de ta mère, c'est ton demi-frère. Mais c'est quoi? Kafir. Naam. Il est devenu kafir. On a un demi-frère qui est kafir. Naam. Attends une chose. Naam. Et le kafir, quand c'est quelqu'un qui est proche, on ne se voile pas devant lui. Imagine que ton père, Abu Ummu Asya, imagine que ton père soit kafir. Est-ce que tu vas te voiler devant lui? Tu ne te voiles pas. Naam, parce que c'est toujours ton père. Imagine que ton fils, la qaddar Allah et la qaddar Allah aussi pour le père, soit kafir. On ne se voile pas devant lui. Naam. Mais on se voile devant quelqu'un qui est étranger. Qui est étranger pour lui. C'est pour ça que, regarde Abu Umm Asya, regarde. Quand un enfant est de zina, naam, disons une fille est de zina, naam, son père est kafir par exemple. Naam. Elle doit se voiler devant lui, même s'il est musulman. Elle doit se voiler devant lui, même s'il est musulman. Pourquoi? Parce que c'est un père de zina. Ce n'est pas son vrai père. Mais maintenant, à partir du moment où ce père, qu'il soit musulman ou kafir, se marie avec sa mère, avec la mère, avec laquelle la femme avec laquelle il a fait zina, cette fille ne va plus se voiler devant son père. Pourquoi? Parce qu'il est son beau-père. Il est le mari de sa mère. Il est le mari de sa mère. La même chose ici. Le kafir, tant qu'il a bu du même lait, il est toujours quoi? Il est toujours mahram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Mana 81. Tafadhali.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense. Ma question est la suivante. J'avais trois femmes. Donc, j'ai une grand-mère et deux demi-grand-mères. Elles ont des sœurs. Est-ce qu'elles sont considérées comme muhram? Barakallahu fikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avoue que c'est une question qu'il m'est assez difficile de comprendre. Hein? Naam, il m'est assez difficile de comprendre. Je dois, inshallah ta'ala, aller doucement et faire des doigts pour comprendre. Naam, car c'est la première fois que j'entends ça. Tayyib, ma question est la suivante. Mon grand-père avait trois femmes. C'est normal. Trois femmes, il lui manque la quatrième. C'est normal, là. Mais là, je commence à perdre la boussole. Donc, j'ai une grand-mère et deux demi-grand-mères. Pourquoi des demi-grand-mères? Je ne comprends pas. Pourquoi elles sont des demi-grand-mères? Pourquoi elles ne sont pas des grand-mères? Non. Pourquoi les deux, celles-là, les pauvres, elles sont devenues seulement des demi? Les co-épouses ne sont pas les mères de mon père. Eh, ça se complique plus. Les co-épouses ne sont pas les mères de mon mère. Les co-épouses ne sont pas des mères de mon père. Franchement, Yanni a dit, je ne peux pas la comprendre, c'est difficile. Ah, je ne peux pas comprendre. Les co-épouses de mon grand. Tfadl, muslim, explique-moi. Tfadl.
Assalamu alaikum. Yanni, cheikh, le grand-père de cette personne, il avait trois femmes. Dans les trois femmes, une seule est la mère de son père. Les deux autres, pour son père, Yanni, ce sont les femmes du père de son père. Yanni, est-ce que jusque-là, cheikh, vous suivez? Donc, pour elle, Yani, maintenant, elle c'est la petite fille, Yani, de son grand-père. Et elle, pour elle, elle demande, Yani, c'est les deux femmes de son grand-père, les deux autres femmes de son grand-père, Yani, c'est qui pour elle? Vu qu'il n'y a aucune parenté, Yani, de sang par rapport à elle. Vous avez compris, Inch'Allah, cher. Afouen, mon petit-fils, Afouen Mana. Yani, cher, est-ce que vous avez compris? Je répète, Inch'Allah. Cher, vous avez compris, Inch'Allah. Non, tfadal, cher.
Ya wasmak, comment tu t'appelles? Mana, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Regarde, moi je vais te poser la question, tu vas me dire si j'ai compris. Ton grand-père, bi'idhni ta'ala, avait trois femmes. Naam. Tu parles des deux autres femmes, tu parles des deux autres femmes de ton grand-père. Est-ce que tu es leur mahram? C'est ça la question? Est-ce que tu es leur mahram? Alors, subhanallah, il me faut un marteau, moi, pour comprendre ça. Leur sœur à elle. Leur sœur aux deux femmes. Naam. Les sœurs des deux autres femmes. Naam. Tayeb, regarde Mana, si j'ai bien compris. Tu m'écris, tu me dis non, tu me dis naam. Ton père, pardon, ton grand-père a trois femmes, mashallah. L'une des trois, c'est ta grand-mère, naam, c'est ta grand-mère, yani, disons, tu es le fils du fils. Ça. Maintenant, reste les deux autres femmes de ton grand-père. Est-ce que tu es un mahram par rapport aux sœurs de ces deux femmes? Chaque femme de ton grand-père a quoi? A une sœur, par exemple. Est-ce que tu es mahram à cela? Naam. Attends, Inch'Allah Ta'ala, je vais réfléchir une seconde pour bien concevoir la chose. Attends, Inch'Allah Ta'ala. Attends, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Tu m'entends, cher, tu m'entends? Naam. Elles sont pour toi, pardon, toi, tu es pour elles un mahram. Toi, tu es pour elles un mahram. Naam. C'est la femme de ton grand-père, celle-là, c'est sa sœur. Celle-là, c'est sa sœur. Naam. C'est-à-dire que, Inch'Allah Ta'ala, tu ne peux pas te marier avec elle. Naam. Attends une seconde encore. Attends encore une seconde. Attends une seconde. Réfléchissez bien. Parce que vous savez que c'est assez compliqué. Naam. La sœur. Pardon. Mon grand-père a une femme. Naam. Donc, c'est ma grand-mère. Et elle, c'est sa sœur. Naam. Elle dit, c'est ta tante. C'est pas comment on dit ça en français. Arrière-tante. Naam. C'est une arrière-tante. Parce que, pourquoi? Écoute-moi bien, Mana. Les deux autres, Naam, étant la femme de ton grand-père, étant la femme de ton grand-père, Naam, est-ce alors ta grand-mère ou pas? Moi, je te pose une question. Est-ce ta grand-mère ou pas? J'attends ta réponse, Mana. Est-ce ta grand-mère ou pas? Naam. Si c'est ta grand-mère, donc sa sœur est interdite. Si c'est ta grand-mère, donc sa sœur est interdite pour toi. Mais maintenant, ce qui me pose un problème, c'est que mon père, quand il se marie avec une femme, Naam, c'est-à-dire une deuxième femme. Mon père, quand il se marie avec une deuxième femme, cette femme, moi je ne peux pas l'épouser, bien sûr. C'est qui? c'est la mère, pardon, c'est la femme de mon père. Mais je peux épouser sa sœur. Mais je peux épouser sa sœur. C'est ça qui, d'un autre côté, est contradictoire. C'est cela qui, d'un autre côté, est contradictoire. Inch'Allah ta'ala, je dois encore bien réfléchir. Mana, je préfère ne pas te donner la réponse. Je préfère ne pas te donner la réponse jusqu'à Inch'Allah ta'ala, ce que je m'asseye et réfléchisse bien bi'idna ta'ala. Naam. Attends-moi, Inch'Allah ta'ala, si je peux, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, car d'ici demain, j'aurai ma tête assez vide, Inch'Allah ta'ala, pour mieux réfléchir et te donner, Inch'Allah ta'ala, la réponse bi'idna ta'ala dans le prochain cours d'après-demain, Inch'Allah ta'ala. Naam. C'est plus sûr, Inch'Allah ta'ala. El-Biskri, tafadhal.
El-Biskri, c'est à votre tour, Inch'Allah, de poser une question. Cher El-Biskri, il n'a pas de question, Inch'Allah, faut passer à Abou Myriam. Il avait levé la main sans faire exprès. Cher, vous êtes avec nous ou pas? Abou Myriam, il a baissé la main aussi, subhanallah. Moussab, c'est à vous, Inch'Allah. Puisque Abou Myriam a baissé la main.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je me suis déconnecté. Fais saute. Tayyib. Mana 81. Je te relève le point rouge. Et dis-moi, Inch'Allah ta'ala, si tu es dans la salle. Dis-moi, Inch'Allah ta'ala, si tu es dans la salle, écrit numéro 1. Naam. Alhamdoulilah, voilà, pendant l'instant où je me suis déconnecté, je me suis reposé, j'ai réfléchi, Inch'Allah ta'ala, je te donne la réponse, Inch'Allah ta'ala. Naam, cette femme, Inch'Allah ta'ala, ces deux femmes, leurs sœurs sont des étrangères pour toi. Naam, sont des étrangères pour toi. Elles doivent se voiler devant toi, car tu as le droit de te marier avec elles. Quel est le dalil? Et le dalil, c'est ce que je viens de donner. Je viens de donner le dalil. Regarde mon père, quand il se marie avec une deuxième femme, cette femme, si elle a une sœur, je peux me marier avec elle. Si elle a une fille, pas une sœur, si elle a une fille, je peux me marier avec elle. Alors, qu'en est-il mon grand-père, qui est plus loin que mon père? Naam, c'est la même chose, et c'est encore plus loin. Donc, Inch'Allah ta'ala, les deux sœurs, des femmes de ton grand-père sont des étrangères pour toi. Elles doivent se voiler, naam, car tu peux épouser ces deux sœurs. Et encore mieux, si la femme de ton grand-père avait une fille, tu pouvais l'épouser. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Moussab, tafadhali.
Salam alaykoum, cher. Si mon mari veut se marier avec une autre femme, est-il obligé de refuser par jalousie qu'il le fasse? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand un homme veut se marier avec une deuxième femme, il n'est pas obligé d'informer la première. C'est-à-dire que s'il se marie avec elle sans informer la première, son mariage est valide. Car la règle dit que man la yushtarat idnuh, la yushtarat ilmuh. La règle dit que quiconque dont on n'a pas besoin de consentement, on n'a pas besoin de l'informer. Naam. C'est comme si j'avais, par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, disons que... attendez, comment je vais donner un exemple. Par exemple, si j'ai un esclave, je veux le libérer. Est-ce que je dois lui demander son avis? Je lui dis, tu es libre. Ce n'est pas la peine de lui demander son avis. Ni lorsque je veux le vendre. La femme, naam, puisque si je lui demande son avis et qu'elle dit non, il m'est toujours possible de me marier. Donc, à quoi ça sert de lui demander son avis? Mais, il est du bon comportement de l'avertir. Car après, il risque d'avoir des problèmes. Surtout si le mariage a été fait en cachette. Et elle risque, la deuxième, d'avoir un enfant. Et cet enfant risque de faire la connaissance de la première fille. Et comme ça. Et ça risque d'engendrer vraiment de grands problèmes. Elle est premièrement. Deuxièmement, ai-je le droit de refuser par jalousie? Il n'y a pas une femme, à ce que je sache, qui accepte que son mari se marie. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith de Bukhari, quand son épouse, Habiba, Ramla, la fille de Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anha, lui a dit, et pourquoi tu te maries pas, pourquoi tu te maries pas avec ma sœur? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, awa tuhibbin, est-ce que tu accepterais? Et ici, Ibn Hajr al-Asqalani a fait un commentaire dans Fath al-Bari, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a posé cette question, c'est une interrogation d'étonnement. Awa tuhibbin, ça te plairait? Tu accepterais? Il a dit comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonné. Pourquoi? Vu qu'il n'y a aucune femme dans le monde qui accepte que son mari se marie. Et celles qui acceptent, bien sûr, sont vraiment rares. Non, il y en a, mais vraiment, vraiment rares. Et vous allez me dire, pourquoi Habiba lui a dit, est-ce que tu te maries avec ma sœur? Sachant qu'il est impossible à un homme qui se marie avec deux sœurs à la fois. On dira qu'elle ne savait pas que c'était interdit. Elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui interdisait en islam à quelqu'un de se marier avec deux femmes. Peut-être que ce jugement était nouveau et que peut-être elle ne savait pas, même s'il était ancien, car pas tout le monde connaît toutes choses. Car tout le monde, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Même si on est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'elles ignoraient. El-Mohim, j'ai même lu que, vous savez que, il est interdit à une femme de dire à son mari ou de lui imposer de divorcer l'une de ses femmes. Si elle fait comme cela, si elle fait ainsi, elle a fait un péché, un grand. Si elle lui demande de divorcer une de ses femmes à cause d'elle. Mais j'ai lu ce que j'ai lu, Allah Ta'ala, A'lam, dans le livre qui s'appelle Fatawa Nisa, certains ulama ont dit, il lui est permis alors, si vraiment elle sent qu'elle va mourir de jalousie, qu'elle demande la séparation. Naam, elle ne lui demande pas de divorce, mais elle demande qu'elle aille chez ses parents, qu'elle vive seule, séparée, car elle a le cœur qui brûle de jalousie, et si elle continue comme ça, elle risque de tomber malade ou de mourir. Il y a des femmes qui sont vraiment, 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 vraiment jalouses. Dans ce cas, j'ai lu que c'était une des excuses, Wallahu ta'ala alam, de demander la séparation. On doit laisser cela vraiment dans le cas où la femme, c'est que si elle continue, elle risque pour sa santé et elle risque pour sa foi, etc. etc. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Ummu Aliya, tafadhali.
Assalamu alaykum. Afwan ibn al-Qayyim, j'ai pris le micro. C'est pour informer qu'il y a une personne sur la room qui s'amuse à envoyer des PV. Elle a été prévenue. Et année ici, si elle continue encore à envoyer des PV, elle sera bounsée. Yanni, cher, ouvrez-moi le PV, Inch'Allah, je vous donne le... Ah ben voilà, khalas. Ibn al-Qayyim, il a donné son pseudo. On vient de se plaindre là encore une fois, alors que Ibn al-Qayyim, il avait prévenu. Barakallahu fikoum. Ibn al-Qayyim, tfadl, Inch'Allah.
Salam alaikum, cher, j'ai exhorté le frère en PV, je lui ai dit, je l'ai confronté aux sœurs qui se plaignaient, il a pas nié, donc voilà. Salam alaikum, cher. Y a-t-il une différence entre allaiter et donner son lait avec un biberon? Par exemple, donner mon lait sans allaiter, fisabilillah, à la maternité. Entre parenthèses, pour éviter le gaspillage, la règle est-elle la même? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut. Vous avez remarqué que, Inch'Allah Ta'ala, on a commencé le cours à 19h. Il est chez moi, quand est-ce que, combien il est minuit et quart, c'est-à-dire 3h et quart, Masha'Allah. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que si je vais m'arrêter dans un quart d'heure, que vous comprendrez, Inch'Allah Ta'ala, mes excuses, et que je dois, Bidna Ta'ala, me reposer pour pouvoir me réveiller, Inch'Allah Ta'ala, le matin. Naam, je continue, Inch'Allah Ta'ala, avec vous, le dernier quart d'heure, bi'idhnillahi azza wa jal. Je dirais, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Attention, j'avertis mes sœurs que Non, donner le lait en donnant la poitrine à quelqu'un ou en lui donnant le biberon, ça revient exactement à la même chose. C'est la même chose à 100%. Car l'essentiel, c'est que l'enfant ou la personne a bu le lait, qu'elle le boive directement de la poitrine ou qu'elle le boive par je sais pas comment on appelle ça, une autre solution ou là. Non, l'essentiel, c'est quoi? C'est le lait qui est arrivé et est rentré dans le ventre de la personne qui l'a bu, que ça soit directement en poitrine ou que ça soit par une autre alternative. L'essentiel, c'est que celui qui boit, il devient l'enfant de cette femme. Alors attention, cette femme qui donne comme ça, fisabilillah, et elle ne sait pas à qui on va donner le lait. C'est très grave. Elle ne sait pas à qui. On va le donner comme ça en général à des personnes qui vont devenir ses enfants et elle ne sait pas. Et après quoi, l'un de ses enfants, qui est son enfant, va se marier peut-être avec l'une de ses filles. Il y aura quoi? Le mariage d'un enfant avec sa sœur. Et ce sera très grave. On ne donne pas le lait comme ça sans prendre les informations sur la personne. Naam, qui est cette personne, comment elle s'appelle, où elle est née, etc. Pour savoir, yani, quand elle va grandir, pour que je sache que cette personne, c'est mon enfant. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Atfadal, inshallah ta'ala, le prochain, inshallah ta'ala. C'est-à-dire, Ayman. Naam, je dis que, naam, ceux qui ne savent pas, surtout les sœurs, si vous ne savez pas, il y a une option comment vous ne recevez aucun PV, sauf des personnes que vous avez sur la liste, c'est-à-dire des amis, mashallah. Donc vous pouvez écouter un dars en étant tranquille. Aucun PV ne peut vous arriver. Naam, vous cliquez sur File dans la fenêtre où il y a le Paltalk, pas dans celle-là, dans l'autre, la fenêtre principale. Vous cliquez sur File. Naam. Ensuite, vous cliquez Setup Préférences. Ensuite, quand c'est Setup Préférences, vous allez choisir, attendez, je vois ici, je vais choisir, qu'est-ce qui est écrit ici? Privacy. Non, c'est écrit Privacy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, quand on est en haut. Privacy. Ensuite, quand je clique sur Privacy, je trouve trois choses. Je trouve trois choses. C'est écrit Allow, All User to Contact Me. La deuxième, Invite and File Transfer. Et la troisième, Allo Contact from Pal List Only. Sur celle-là, je clique. Je cause la troisième case où c'est écrit Allo Contact from Pal. Et je dis OK. Et je dis OK. À partir de ce moment, personne ne peut me contacter ni m'envoyer de PV, alhamdoulilah. Tayyib, Ayman, c'est quoi la question? Tfadal Ibn Qayyim.
Salam alaikum. Ma grand-mère m'a allaité. Avant mes 2 ans, même ne se souvient plus du nombre de tétés. Est-ce que mes cousins, entre parenthèses, donc ses petits-fils, me sont interdits ou pas? Jazakallahu khairan.
Wallah, et depuis que je lis sur cette question, je la rencontre plusieurs fois, je trouve toujours deux avis. L'avis qui dit, tant que j'ai pas la preuve qu'il y a eu 5 tétés, Naam, je reste dans le halal, qui sont halal et pas interdits tant que je n'ai pas la preuve. Ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis qui se base sur la prudence, il dit, tant que je ne suis pas sûr, il est possible qu'ils ont été 5. Il dit, c'est possible. Où est la preuve qu'ils n'ont pas été 5? Je n'ai pas de preuve. Elle ne se rappelle pas. Donc, c'est possible qu'ils ont été. Par prudence, je m'éloigne. Je m'éloigne en se basant sur le hadith, man istabra'a, yani man ittaqa shubuhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Car le hadith a dit que quiconque qui a les doutes, il s'éloigne des doutes. Naam. Et le hadith, vous connaissez tous dans le Bukhari. Donc je prends avec le deuxième avis qui dit que il vaut mieux m'éloigner tant que j'ai des doutes et faire d'eux des interdits. Naam. Tant que ma mère, c'est sûr, ou là ma grand-mère, c'est sûr qu'elle a allaité, mais elle ne se rappelle pas de combien de fois. Alors il est possible qu'elle ait allaité 10 fois, 15 fois, on ne sait jamais. Donc par prudence, je m'éloigne. Wallahu ta'ala alam. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours deux avis dans cette question. Celui qui s'écarte des doutes aura préservé son nom. Naam. Wallahu ta'ala alam. Habibullah, tafadhal.
Habibullah, si vous avez du mal à envoyer votre question sur la fenêtre, envoyez-moi-la en PV. Et si vous êtes avec nous, tapez le numéro 1, Inch'Allah. Sinon, on passe à Oum Hafousa. Salam alaikum. J'aimerais savoir si je peux faire exprès d'allaiter mes neveux pour qu'ils deviennent frères de mes propres enfants. Barakallahu fikoum. C'est la question de Habibullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam Habibullah. Si les enfants que tu veux allaiter, si les enfants que tu veux allaiter n'ont pas encore atteint 2 années, Naam, n'ont pas encore atteint 2 années, tu peux les allaiter pour qu'ils deviennent les frères, Naam, les frères de lait à tes enfants. Et pour qu'il n'y ait pas de machakil, comme ça, ils ne sont pas obligés à chaque fois de se couvrir. Naam, comme ça, Masha'Allah, à chaque fois qu'ils viennent, ce n'est pas la peine que les filles se couvrent devant les garçons. Mais il faut remplir les 2 conditions et plus, et pendant les 2 premières années, et avertir les gens, et avertir les enfants, etc., que c'est ton frère de lait et que c'est ta soeur de lait. Naam. On ne sait jamais, on meurt, et ils ne savent pas, et ils vont se marier. On avertit les gens au maximum. On avertit les cousines, les cousins, tout le monde, pour que s'il se passe quelque chose, il y a des témoins qui vont nous remplacer et avertir ces gens qui sont des frères pour qu'ils ne puissent pas se marier. Wallahu ta'ala a'lam. Oum Hafousa tafadhali. Amin ya Rabbil Alamin. Je vous rappelle, inshallah ta'ala, que après demain, inshallah ta'ala, le cours, c'est sur la personnalité de la femme musulmane. Et qu'on est seulement au 2e cours, et que pour les sœurs, inshallah ta'ala, qui veulent avoir vraiment un comportement de vraie musulmane, de ne pas, inshallah ta'ala, d'essayer, inshallah ta'ala, de ne pas rater ce cours, bi'idna azzawajal, pour bien se former comme étaient les pieuses prédécesseurs, bi'idna azzawajal. Comme je n'oublierai pas de vous avertir que mes cours dorénavant commencent à 19h et vont descendre aussi. Car les temps, ici, le temps a changé, les horaires, naam, et je ne peux pas, bi'idna ta'ala, veiller jusqu'à minuit pour commencer le cours. Tfadzal.
Salam alaikum, Shir. Est-ce qu'il est possible de m'ouvrir votre PV? Barakallahu fikoum. Je rappelle que le Shir est énormément sollicité, donc en principe, il faudrait éviter ce genre de questions. Voilà.
Le malheur, c'est pas cela. Le malheur, c'est que Oum Hafousa elle-même a les PV fermés. C'est-à-dire que quand moi je la contacte, elle n'accepte pas. C'est ça le malheur. Naam. Mais allez, je vais essayer encore une fois. Ah. On me dit, tu ne peux pas lui envoyer. Non, je ne vois pas comment lui ouvrir. Allez. Subhanallah, l'adhim, c'est étonnant. Allah. Anonyme, tafadhal. Tayyib. Mais redébloque, inshallah ta'ala. Redébloque pour recevoir. Naam, redébloque pour recevoir. Ensuite, tu rebloques. Tafadhal, bnou.
Salam alaikum. Quel genre de fête peut-on faire lors des cérémonies de mariage, spéciale fête pour hommes et spéciale fête pour femmes?
Oum Hafousa, Inch'Allah, est-ce que tu m'entends? Oum Hafousa, est-ce que tu m'entends? Naam, ne pars pas, Inch'Allah ta'ala, je parle avec toi. Je parlerai, je continuerai avec toi après le dars, Inch'Allah ta'ala, qui va s'arrêter dans quelques minutes. Tayyib, quel genre de fête peut-on faire lors du cérémonie de mariage? Spéciale fête pour hommes, spéciale fête pour femmes. Dans un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On fait les femmes d'un côté et les hommes de côté. Naam, on peut par exemple, comme de nos jours par exemple, on peut par exemple mettre les hommes par exemple dans une salle et les femmes dans une autre salle. Ou bien, comme chez nous par exemple ici au Koweït, lorsqu'ils construisent une salle, ils construisent en même temps en haut pour les hommes et en bas, le sous-sol pour les femmes. Et bien sûr, c'est très bien fermé, de façon à ce que tu n'entendes jamais ce qui se passe en bas, ni elles entendent ce qui se passe en haut. Naam. Si Maintenant, il n'y a pas comme ça. On fait un jour, par exemple, tel jour, c'est les hommes, tel jour chez les femmes. Ou bien c'est le contraire. Tel jour, c'est les hommes, c'est les femmes, et tel jour, c'est les hommes. Et comme ça. Là, mais on ne mélange pas les hommes et la femme dans la même maison, ni dans la même salle. On ne les mélange pas. On fait pour chacun son tour, bi'idhnillahi azza wa jal. Pour tout le monde. Mais il faut mettre du madih. Pour tout le monde. J'ai pas compris. Le madih, c'est pour les femmes. Naam, ce n'est pas pour les hommes. Naam, le madih, c'est pour qui? C'est pour les femmes. C'est les femmes qui aiment ce genre de choses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous ne dites pas ateinakum, ateinakum, hayyuna, fa hayyuna nuhayyikum? Car les femmes des Ansar aiment les jeux et aiment l'ahou. Mais ce n'est pas pour les hommes ces choses-là. Naam, ce n'est pas pour les hommes. Les hommes, ils se regroupent juste pourquoi? Voilà, c'est juste le repas. Et ils discutent un peu et ils disent Allah barakallahu lak ou barakallahu alik wa jama'a baynakuma fi khayr. Naam. Si maintenant pour les hommes, on voudrait faire, ça se fait. Si on voudrait faire un petit rappel, on ramène quelqu'un qui fait un rappel sur les règles du mariage, etc. On peut faire cela. Naam. Mais si on ne fait pas, on ne fait pas. Ce n'est pas yani une sunna. Mais pour les femmes seulement, on fait le lahu. On fait le lahu, le madih, etc. Naam. Hudayfa, tafadhal, inshallah ta'ala. Le temps est déjà passé, mais tafadhal.
Hudayfa, bon, c'est moi la femme de l'Ina. Salam alaikum, shir. Une sœur a été divorcée quand elle était enceinte de son troisième enfant. Le père vient de chercher le premier fils, mais ne prend pas de nouvelles de son second fils et le troisième. Quel est le jugement par rapport à cette situation et à la garde de ses enfants? Il n'a pas accepté son second et son troisième enfant. Barakallahu fikoum shir pour votre réponse. Excusez-moi si c'est hors sujet.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut? Naam, est-ce que fi saut? Alhamdulillah. D'abord, je dis à Anonyme, qui m'a dit que Anonyme m'aimait Allah, je lui dis Ahabaka alladhi ahbabtani lahu. Ahabaka alladhi ou ahbabaka Allah alladhi ahbabtani lahu. Ensuite, je dis à Hudayfa, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Naam, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Il n'a pas accepté le deuxième et le troisième. Est-ce qu'il n'a pas accepté de les voir? Ou bien il n'a pas accepté que ça soit des fils, ses fils, il les a reniés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas accepté le deuxième et le troisième. Est-ce qu'il les a reniés? Il dit ce ne sont pas mes fils. Ou bien il n'accepte pas de les voir, c'est tout. J'attends la réponse. Naam, alhamdoulillah, c'est moins grave. Alhamdoulillah, c'est moins grave. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Bi'illah azza wa jal, on dit, il ne veut pas les voir, il ne veut pas prendre de leurs nouvelles. Il aura des comptes à rendre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables, si je puis dire, et chacun est responsable, hein, de ce dont il est responsable, si je puis dire. Hein, ici, il a eu des enfants. Il doit donc assumer sa responsabilité, demander de leurs nouvelles, les voir et yani, donner ce qu'il doit donner comme dépense, naam, sauf si la femme veut que ce soit elle qui, naam, qui prend yani, le hadana. Le hadana qu'on dit en français, qu'on appelle, on dit comment qu'on appelle le hadana. Naam, j'ai oublié comment qu'on appelle le hadana. La garde, la garde. Naam. Donc maintenant, s'il ne veut pas, normalement, il ne devait pas, naam, avoir avec elle d'enfants. Encore moins, il ne devait pas se marier. Quand on se marie, l'une des causes des mariages, ou bien disons l'un des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. et d'avoir aussi beaucoup d'enfants, bi'idna azza wa jal, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ravi le jour du jugement dernier. Et maintenant, si je vais avoir des enfants, ensuite je vais les jeter comme ça et ne pas aller les voir ou ne pas demander de leurs nouvelles et ne pas faire le nécessaire, c'est que cette personne aura des quoi ? Aura des péchés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous dis toujours que le mariage ce n'est pas un jeu. Le mariage ce n'est pas seulement la première semaine et la première nuit qu'on appelle la lune de miel. Mais le mariage, il faut voir beaucoup plus loin, bi'idna azza wa jal. Il faut voir beaucoup plus loin, bi'idna Allahi azza wa jal. Naam, on me demande d'ouvrir un PV. Je disais que... Donc, en ce qui concerne la garde des enfants, normalement, à 7 ans, avant 7 ans, les enfants sont chez la mère. Après 7 ans, il choisit. On dit à l'enfant de choisir. Mais il va montrer, bi'idhnillah ta'ala, et donner des preuves que le fait que l'enfant choisisse, il peut choisir par patience et tout. Et il peut choisir un père qui est pervers, alors que la mère est pieuse. Et il peut choisir la mère qui est perverse, loin du dîn, alors que le père est pieux. C'est pour ça qu'il dit que l'avis le plus juste, on le donne à celui des deux qui quoi ? Qui, bi'idna ta'ala, remplit plus de conditions dans le dîn. Naam, celui qui remplit plus de conditions dans le dîn, bi'idna azza wa jal. Naam, c'est cela par rapport à la garde, incha'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a une autre chose que peut-être je n'ai pas comprise ? Vous me l'avez dit, incha'Allah ta'ala. Porte, dis-moi, incha'Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il y a auquel je n'ai pas bien répondu, par exemple. Naam. Un homme ne peut pas divorcer de sa femme si elle est enceinte. Si. Quand un homme divorce de sa femme quand elle est enceinte, naam, ce qui est le cas d'ici. Non, quand un homme divorce de sa femme quand elle est enceinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son divorce est un divorce de la sunna. Naam. C'est un divorce de la sunna bi'idna azza wa jal. Ça devient un divorce de la bid'a s'il la divorce dans les monstrues, dans une purification où il l'avait touchée. Mais maintenant, si il la divorce quand elle est pure, sans l'avoir touchée, ou bien il la divorce quand elle est enceinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire bi'idna azza wa jal que c'est un divorce de la sunna. Il a fait un divorce dans la sunna bi'idlillahi azza wa jal. Naam. Incha'Allah ta'ala. Je dois m'arrêter incha'Allah ta'ala ici. Je vous donne rendez-vous lundi incha'Allah dans la personnalité de la musulmane. Et je vous dis jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nija'ala hadha fi mizan hasanat. Man yu'allimana dinana. Man yirzuqana l'ikhlas. L'ikhlas li wujhi azza wa jal. وأن يحبب إلينا الإيمان وحب طلب العلم ابتغاء وجهه آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم إسماعيل تفضل. طيب إسماعيل واسك توي je te vois pas واسك توي بإذن الله تعالى et مسلم إن شاء الله تعالى je te donne un rendez-vous très prochainement إن شاء الله تعالى. نعم car on aura beaucoup à parler, Inch'Allah Ta'ala. Ismaël, où est-ce que tu es, Inch'Allah Ta'ala? Ismaël, je ne vois pas où tu es. En dessous des mains, lui. Tayyib. Om Mohamed, Abu Fatima, Om Hudayfa, Om Amran, Namana, Om Imran, Salafi, Inch'Allah, Zainab, Muslimin, ya. Il n'y a pas, subhanallah al-Azim, il n'y a pas Ismaël. Naam, Al-Hanifiya, Abu Asma, Om Ja'far, Om Nuh. Où est-ce que tu es, toi? Entre deux raids. Entre deux raids, il y a anonyme. Le dernier, attends. Ismaël de Marseille. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, je vous dis, subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.